dans le tempo, vous êtes dans l'épisode 56. C'est parti. Bienvenue dans DLT, le podcast des passionnés de musique. Je suis avec mon gars Daz. Ça va,
ouais,
Daz?
Ça va tranquille.
Es-tu satisfait des derniers épisodes sortis de DLT?
Plutôt.
Oui, pas mal.
Plutôt,
hein.
Je vois que ça crée la polémique.
Oui, allez DJ, mon gars.
Ouais, allez DJ. Bah,
on parle de DJing dans cette émission. D'ailleurs, dans tous les formats Confession monte le son, c'est la polémique. Sont-ils vraiment des musiciens? Sont-ils nuls? Oui, ils sont nuls d'après certains.
Oui, bien sûr, c'est le matos qui fait tout, blablabla. Bla, 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 bla. On connaît.
Alors que nous, on prône l'ouverture dans DLT Daz.
On prône l'ouverture, mais c'est vrai que des fois, tu fais des miniatures où tu sais que tu vas te faire.
Ah, pour trigger un peu. Ouais, ouais, mais ça, c'est juste essayer de rentrer dans le jeu de YouTube. Mais ensuite, c'est le contenu qui prime. Et le contenu, lui, est fin.
Oui, mais tu sais que les gens qui regardent les miniatures, écoute pas deux heures d'émission.
C'est vrai. Bon, vous l'aurez peut-être reconnu, nous sommes avec Altarba. Merci beaucoup d'être avec nous, ça fait plaisir.
Merci pour l'invite les gars, ça fait plaisir.
Je suis content de faire cette émission avec toi parce que tu as une carrière atypique. Tu proposes une musique relativement exigeante, variée, à la fois instrumentale quand t'es en solo, à la fois tu fais du featuring avec des rappeurs parce que tu es beatmaker, compositeur. Et je pense qu'on va avoir plein de thèmes à aborder. Ce que je vais faire déjà, si tu veux bien, c'est te présenter rapidos.
Allons-y.
Daz, tu connaissais Altarba un peu?
Bah, je connaissais de nom.
Ouais.
Ouais. Mais j'avais jamais digué plus que ça, tu vois.
Eh bien, écoute, on va en profiter dans cette émission.
Digons ensemble.
Non, je disais, ouais, t'es beatmaker, compositeur. On a commencé vraiment à te connaître en 2007 quand tu sors ton premier LP. C'est ce moment 2007, ouais, c'est ce moment-là aussi.
2007, ouais, le tout premier sorti en 2007.
C'est ce moment-là aussi où avec ton groupe
Drugs Brigade,
bien sûr.
Voilà, dédicace à mes drugs.
Dans lequel tu rappes d'ailleurs aussi.
Ouais, aussi, ouais. Mais alors, ouais, et puis je crois que c'est sorti à peu près au même moment. Après, on faisait des sons depuis pas mal de temps parce qu'on est retombé, on a sorti une mixtape il y a pas longtemps. On a digué justement dans les vieux morceaux, qui datait de 2003 quand même.
Ok.
Du coup, voilà, en fait. Bon, des choses ignobles, hein, mais
OG, bah,
encore que, c'était, ouais, c'est ça, un OG de EJ.
20 ans de musique.
Le OG de EJ.
T'as commencé sur EJ?
Exactement. Oh,
putain, c'est pour ça beaucoup, que je... hein, mais grave.
Bon, après, est-ce qu'on peut appeler ça commencer? C'est juste histoire de. Enfin, si, en fait, parce que tu captes le principe du beatmaking.
En vrai, t'alignes des boucles sonores et tout, tu commences à faire du
bien.
Tu fais des carrés. Démarrer, hein,
ouais, non, bah, le 1 OG de EJ. Ce sera la première punchline.
C'était sur console ou sur ordinateur?
Sur ordinateur.
Ah, quand même.
Il y avait des versions EJ aussi un peu
tenant. Sur PS2, ah ouais, mais là, ouais. T'es dur. Ah, t'es dur.
Ouais, sur la PlayStation, je crois qu'il y avait même. Il n'y avait pas que EJ d'ailleurs, je crois qu'il y avait un autre.
Il y avait d'autres trucs dans le même genre.
Je crois, la légende, c'est qu'il y a une prod de Booba sur Temps Mort qui a été faite sur.
C'est vrai, avec ses
sons. Sans rature, je crois. Avec Nesbill. Okay. Et alors, il y a une légende, je ne sais pas si elle est vraie, mais que cet instru avec le clavecin magnifique a été faite sur PlayStation.
Ah ouais,
incroyable.
Mais je ne suis pas sûr de cette info.
Ça expliquerait la qualité globale de
des jeux. Ah ouais, c'est mon instru préféré du projet, nom de Dieu.
Non, mais tu sais quoi? Alors, je pense que l'époque a changé parce que les séquenceurs aujourd'hui ont tellement d'outils intégrés qui facilitent la composition de manière générale. Mais c'était quand même assez incroyable d'avoir juste ces carrés sonores en fait que tu imbriquais entre eux pour créer de la musique. C'était une super approche pour découvrir en fait.
Ah ouais, c'est ça. C'était direct dans le principe en fait. Après voilà, c'était tous les trucs qui étaient faits pour s'encastrer entre eux.
Ouais. C'était
du jeu aussi, mais c'est vrai qu'au final, c'est là où tu disais, voilà, je vais faire un passage comme ça, et puis t'imbriquer les sons entre toi. En fait, c'est le. Je ne fais que la même chose, en fait, putain, 20 ans après.
C'est ça, en fait, les petits, ils démarrent là-dessus, et puis après, ils gardent les réflexes, et quand ça devient des adultes qui achètent du matos, ils font la même chose.
Absolument.
Bien sûr.
Ah, d'ailleurs, nous avons une intervention d'Az hors antenne de Renoiser qui est avec nous aujourd'hui et qui nous dit musique 2000 sur PlayStation.
Musique 2000, ouais.
Absolument.
Ouais. Moi, j'avais déjà 46 ans, donc en fait, c'était déjà trop vieux, mais.
T'avais pas de PlayStation.
Non, j'aurais kiffé avoir 12-13 ans à cette époque-là.
Découvrir ça.
Ouais.
Ouais, c'était fou.
Franchement, moi, je l'ai fait avec Fruity Loops, du coup.
Jules, je continue à parler un peu de ta carrière. Alors, ta page Discogs, c'est n'importe quoi parce que t'es hyper actif. À partir de 2007, donc il y a cet LP. Les LP, les EP vont s'enchaîner, les singles aussi, que ce soit en solo, que ce soit avec d'autres gens. Ensuite, premier album 2013, Lullabies for Insomniacs, c'est ça?
Ouais, alors il y en a eu un autre en 2009, en fait,
okay.
qui était sur le même principe que Rap Ultra Violence et Beatmaking. C'est-à-dire, les deux premiers projets, c'était que des prods que j'envoyais surtout à des quinries, en fait, via MySpace.
Okay.
Parce que grâce à MySpace, tu pouvais atteindre, en fait, tes idoles. Mais c'est vrai, c'est un truc qui est assez révolutionnaire. truc pour les...
Attends, le truc de fou, c'est que sur ton premier LP en 2007, tu as Ilbil, tu as aussi Sonsi, membre d'Onyx. Enfin, t'as déjà des gens qui, en plus, pour toi, j'imagine, étaient importants, tu vois.
Ouais, non, mais carrément, c'était... Bah, Ilbil, c'était passé par un concours de remix, en fait. C'est-à-dire que c'était une époque aussi, ils organisaient pas mal de concours de remix via, justement, MySpace ou les trucs comme ça.
Ah, où tu prenais, genre, les acapella et...
Ouais, en fait, ils les écoutaient, du coup, c'était une manière de les atteindre aussi, d'une certaine façon. Et en fait, les là-bas, ça existe toujours, hein, de façon, c'est... Mais là, à l'époque, c'était un peu des événements, à chaque fois, quand Ilbil organisait... Je me souviens, c'était pour un morceau qu'il avait fait avec Rayquan, il avait organisé un concours de remix. J'avais pas gagné le concours, mais par contre, il m'avait après envoyé un truc en disant envoie-moi des prods si tu veux. Donc ça m'avait permis de faire la connexion aussi.
Et c'était, en fait, c'était l'époque où il y avait tous les Brown Albums, de Jay-Z, Nas, où t'as des gars qui remixaient l'intégralité de l'album et ils sortaient des trucs.
Impossible, là c'était vraiment.
C'est côté de ça, moi j'avoue.
Ah ouais,
ouais.
Genre le Brown Album,
le Grey Album, des trucs comme ça. Ouais. Bah, ça c'était pas des albums officiels, mais il me semble, non, c'était des trucs.
Bah si, en fait, c'était les acapella de, ouais, genre du Black Album de Jay-Z, qui était son dernier album,
okay,
théorique. Et en fait, t'avais des producteurs, des beatmakers en place qui faisaient tout l'album en remix et qui le sortaient gratos sur le réseau.
C'est, en tout cas, on a cité des gens là. Alors, je pense que Jay-Z, les gens voient à peu près. On a parlé de Ilbil, d'Onyx, etc. Parce que tu t'inscris aussi dans une forme de tradition musicale, en tout cas, un truc qui te passionne, qui est un rap underground assez particulier, qui va d'ailleurs inspirer ensuite ta musique instrumentale. Tu considères, toi, que tu fais de l'abstract hip-hop, ça te va comme terme?
Ouais, moi je pense que, ouais, en ce moment, en tout cas, après ça dévie un peu plus vers la basse musique.
Ouais.
Ce qu'il y a, c'est qu'au tout début, j'étais très très influencé par Necro, justement, par le Wu-Tang, par le son très new-yorkais, et je le suis toujours d'ailleurs, tu vois, c'est des trucs sur lesquels c'est les bases. En fait, moi je peux pas dire j'écoutais ça à l'époque, j'écoute plus maintenant, c'est très rare que je te dis ça. Même, je crois qu'il y a pas de groupe, tu vois, même Blink 182, on se passe sur ça, mais moi j'écoute leur dernier album, je suis à fond là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ouais, c'était eux qui m'inspiraient beaucoup à l'époque. Et en fait, au fur et à mesure, tu découvres des nouveaux trucs, enfin, comme tous les musiciens, je pense, et en fait, tes goûts ils évoluent. Et forcément, moi, quand j'écoute un truc, j'ai envie de faire pareil, ou en tout cas de prendre des éléments. C'est pour ça que, pour répondre à ta question, abstract hip-hop, c'était le moment. En fait, à un moment, je me disais, je voulais pas faire cette musique-là. Quand je faisais des sons à la Necro, tout ça, je me disais, l'abstract hip-hop, c'est un truc, je sais pas, de Bouddha bar de merde, tu vois. Et au final, j'ai changé d'avis, tu vois, parce que quand. En fait, t'écoutes des sons genre Amon Tobin, Bonobo, des trucs comme ça, en fait, tu te rends compte. Et en fait, souvent, c'est des sons qui sont un peu hybrides entre les styles qui t'amènent à en écouter d'autres. En fait.
Bah, toi, tu dis souvent que t'es à la frontière du hip-hop un peu plus classique, entre guillemets, de l'abstract hip-hop, des musiques électroniques aussi. C'est tout ça qui t'inspire de manière générale.
Ouais, de toute façon, dès que tu te mets, en fait, à te mettre sur les machines et. Bah, tu vois, ça part du sampling, mais même à la synthèse sonore, que je maîtrise beaucoup moins, mais tu vois. Bah, forcément, t'en viens à écouter. Tu vois, parce que même la techno, à un moment, je pouvais être très, je veux dire, juger la techno alors que je passais à côté de plein de trucs, en fait. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est quand je pense que pour même s'inspirer de musique, il faut en écouter pas mal, parce qu'au début, t'entends pas la même chose que les gens passionnés, ils entendent, en fait. C'est-à-dire qu'au début, t'arrives avec soit des a priori, soit un truc en deux secondes, ah, ça fait trop de bruit, ou alors c'est trop boum boum, ou alors c'est trop wesh wesh yo, t'es pour les gens qui connaissent pas le rap, qui disent direct. Ah ouais. Au final, en fait, tu vois, une fois, mon daron m'avait dit ça, il m'avait dit, en fait, j'entends pas forcément la même chose que toi. Mais par contre, si je rentre dans l'histoire d'une musique, où tu vois, par exemple, si tu commences à écouter du métal, t'écoutes direct du grindcore, je pense qu'à part, mais pourtant, moi, j'en suis venu à écouter aussi, tu vois, des trucs assez extrêmes comme musique, mais parce qu'il faut, je pense, passer par des cheminements. Ouais, l'abstract hip-hop, c'est pas la plus extrême, mais en tout cas, ça a été un pont vers après, maintenant, la basse musique et tout ça.
T'as une culture punk, d'ailleurs, à la base, musicale.
À la base, ouais, j'écoutais surtout du punk rock. En fait, j'écoutais beaucoup de rap quand j'étais, mais j'avais même un groupe de rap quand j'avais très jeune. C'est 9 ans, je crois. Mais bon, après, ce qu'on peut appeler ça, un groupe de rap. On écrivait des textes et tout ce genre. Je me souviens encore du premier texte, je vous le ferai pas là. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, on se faisait chier avec mes potes. Et il y a même une vidéo, mais celle-là, je la sortirai pas non plus.
De
la fête. Ouais, je te jure, la fête, je te montrerai.
Enfant de la balle, quoi.
Ah, ouais. Ah non, mais après, est-ce qu'on peut appeler ça du. Tu vois, un groupe de rap, c'était.
Ouais, vous êtes plusieurs.
C'est un
truc
de kermesse, un peu. Mais ouais, si, c'est ça, en fait. Mais en même temps, toutes les récré, on faisait ça. Et après, je suis plus allé dans le punk rock, justement, là, qu'on en parlait, la culture un peu skate aussi.
Ouais.
Et la culture aussi de mes parents qui étaient plus dans le rock français. Tu vois, que ce soit, soit je sais pas moi.
Téléphone, je dis au pif.
Non, mais non, en plus, ces trucs genre. Après, là, c'est plus anglais. Tu vois, les Clash, donc là, c'est pas anglais, c'est anglais, ouais. Tu vois, les Sex Pistols, ces trucs comme ça, des trucs qui m'ont parlé. On va dire, là, je parle du coup en Angleterre. Et puis, dans le punk rock, c'est un peu comme dans le rap, en fait. T'as plein de branches.
Bien sûr.
Et en fait, tu vois, il y a le punk rock, on va dire, la Oi, par exemple, ou alors il y a le skate punk, plein de trucs. Et en fait, moi, je me suis direct intéressé à tous ces styles-là. Et je suis revenu au rap après. Parce que justement, en fait, le son crade, un peu rugueux, je l'ai retrouvé avec Necro, avec le Wu-Tang, avec des trucs comme ça, tu vois, en fait.
Tu vois, là, c'est ça que j'aime bien avec Altarba. C'est que, en fait, t'es un digueur. Tu t'intéresses à plein de trucs musicalement.
Bah ouais, en tout cas, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, non, c'est clair. Après, tu vois, c'est rare que je puisse pas aimer, ne pas aimer même un genre de musique, tu vois.
Est-ce que vraiment tu peux être artiste musicien en restant vraiment monomaniaque sur un truc et...
Monomaniaque, je sais pas, mais en tout cas, tout le monde n'est pas ouvert sur tous les styles.
Ouais.
Ça, c'est certain. C'est, toi, t'as cette impression aussi. Tu penses que les artistes sont globalement...
Chacun a son approche, je pense, en fait. Il y en a qui vont être très dans, en fait. Attends, j'aime pas le mot puriste parce que c'est vite un mot qui, tu vois, qui peut être genre pour qualifier de manière péjorative quelqu'un, mais qui vont soit explorer un style et qui vont pas le lâcher pour justement le développer, mais rester dans une. Et il y en a d'autres qui vont tout mélanger comme moi. Mmh. Alors je sais pas, la vérité elle est entre aucun, je pense, des deux. Après, je m'emmerderais vite. Si j'écoutais que toujours le même truc.
Puis même vis-à-vis du public, tout le monde peut pas se permettre d'être ACDC, tu vois, où c'est le même album à chaque fois.
ouais, c'est sûr. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai jamais écouté un album d'ACDC, je crois.
Mais c'est tous les mêmes. Non, j'adore ACDC.
Ouais, ils vont nous éteindre sur Twitter aussi. Là,
en plus, j'adore ça.
Mais... Non, d'après moi, je connais.
Non, mais après, parce que c'est aussi un défi quand justement t'es un peu polyvalent ou trop polyvalent. Bah, du coup, t'as les gens qui t'ont écouté, qui sont arrivés à ta musique pour un style bien particulier, qui te reconnaissent pas sur le projet d'après et qui peuvent, tu vois.
Ah, même sur un même projet.
Sur un même projet.
Moi, c'est bien, ça a des projets où en fait je me fous du punk rock sur du rap et après faire un morceau, je sais pas moi, Bouddha Bar, comme j'ai là. Non, mais tu vois ce que je veux dire, un truc très onirique, très. Et des fois, les mecs ils disent, ah, bah j'aime bien la telle partie de l'album et pas l'autre. Après, t'as ceux aussi qui, quand ils rentrent dans ton univers, depuis le début, s'ils te suivent, ils voient où tu veux en venir.
Ouais.
Et en fait, ouais, mais même ils voient où tu veux en venir parce qu'en général, la session, elle est pas brutale d'un style à l'autre, en fait.
Ouais, il y a une petite transition.
Sur chaque album, j'essaie de mettre même dans les derniers morceaux, souvent, des petites. Tu vois, je me permets, en général, tu vois, si tu vois mes scuds, ça commence dans le rap pur et dur, puis dans le deuxième, t'as des morceaux, commence à avoir des morceaux instrumentaux un peu bizarroïdes avec des glitches, avec des trucs, et puis le troisième, bah, il y a pour que ça, tu vois.
Ah, tu mets des petits indices sur le projet d'après.
Quand tu finis l'album, t'es là, tu te dis, oh, j'en ai marre de faire ce style. Et en fait, tu te dis, oh, je vais quand même placer une ou un ou deux sons de ce que j'écoute en ce moment. Et après, le suivant, tu vois ce que je veux dire. Vu que les albums, ils sortent toujours que 6 mois, voire un an, des fois après que tu les aies vraiment finis.
Ouais, ou alors, toi, t'es déjà passé à autre chose.
Ouais, passé à autre chose, mais en tout cas, t'as les influences qui, pendant même tu le faisais, qui sont arrivées. Et puis, t'en sèmes un petit peu pour la suite.
Ah, c'est cool.
Je finis juste de te présenter parce que cette introduction est très longue. En même temps, on a commencé à rentrer déjà dans le détail, c'est cool, tu vois. Mais c'est seulement l'intro.
On a tout fini, c'est bon. Allez, hop. Je vais au bar, la bottle shop bar.
Non, pour citer quand même quelques noms avec qui t'as collab quand tu prod pour des rappeurs, beaucoup avec Swiftgad que t'accompagnes régulièrement. Bon, on a parlé d'Ilbil. Il y a eu aussi du Giorgio. Je sais que Nekfeu aussi sur un featuring avec Swiftgad.
Ouais, il y a eu ça, La tête dans la baignoire, c'est un morceau. Qu'on a fait il y a pas mal de temps.
Ouais.
Je me souviens de l'ambiance un peu de ce morceau et tout, c'était cool.
C'était cool.
Ouais, c'était marrant. Bah, en fait, tu veux, la session studio était c'était chez Inch, à qui je fais une grosse dédicace dans le Sombre Sud. Et en fait, on avait tous rendez-vous la veille. Et la veille, j'avais pas l'instru, tu vois. Donc j'ai fini l'instru à 6h du mat. En fait, j'en ai commencé plein. Et à chaque fois, je me disais, je peux pas arriver avec cet instru. Et là, en fait, à la fin, il y en a une. Et puis bam. Non, c'était cool. En plus, il est pas mal ce morceau.
Ah, ça veut dire que les gars ils découvrent l'instru en studio.
Là, pour le coup, ça s'est passé comme ça. Ouais. Ça, c'est pas toujours le cas, mais en fait, là, de toute façon, j'avais une instru au final à proposer aux autres, donc j'ai eu de la chance qu'ils l'apprennent, que ça fasse direct l'unanimité, tu vois, parce que sinon, t'es là, bah.
Bon, bah, j'ai
et
rien.
Après, tu fais les fonds de tiroir et les mecs, ils sont là, puis t'as un mec qui sort, ouais, bon, j'ai installé au tel instru, et là, c'est bon, tu t'es fait.
C'est quoi pour te présenter, pour terminer cette intro, on passe rapidement quelques extraits qui te représentent un peu, on a choisi ça ensemble juste avant.
Yes.
Et un premier morceau, premier LP, 2007.
Voilà, c'est un morceau avec Nems, qui est Nems d'ailleurs, qui tourne pas mal maintenant, qui est même devenu super connu. Je sais pas si vous voyez le Nems. Alors il y a deux Nems, il y a celui le français, le rappeur français, à qui je fais un big up aussi. Okay. Et là, il s'agit du rappeur new-yorkais, qui vient de Coney Island. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà entendu l'expression Bing Bang, qui était devenu super viral. Même, je crois que Joe Biden l'a dit.
Ah ouais.
En fait, c'est une expression de son quartier que lui avait mis en place. Je sais pas, il a des pages qui tournent pas mal sur Instagram. Et donc ça, c'est un morceau que j'avais fait avec lui il y a hyper longtemps et qui est vraiment pour le coup, j'étais vraiment dans l'ambiance à la nécro, à la non-fiction, tout ça.
Et on rentrera d'ailleurs un peu dans les détails, qu'est-ce que c'est que l'horrorcore, quelle est cette scène un peu musicale.
Je crois que ça va au-delà de l'horrorcore, parce que nécro, elle est pas mal dans ce style-là, mais même s'il faisait pas que ça, il build tout ça, il y a des morceaux horrorcore, mais c'est... Il y a vraiment plusieurs styles en fait, plusieurs thèmes.
On va en parler et on s'écoute un extrait de What It Do.
This biscuit, nigga, and take the haze. Leave you shaking like a dog shitting razor blades. Y'all little niggas couldn't make the grades. Listen, if you the king of hearts.
Donc ça c'est de l'horrorcore.
Non, je dirais que c'est plus du son à la
là, c'est,
son,
ouais, là, ouais.
C'est en fait du son new-yorkais mais bien ouais. Crade, tu vois. Et puis tu vois, là j'aimais bien mettre des petites touches de son West Coast, mais à peine, tu vois, t'as les petits tin-tin-tin-tin, où à un moment t'as des sirènes qui débarquent. Et toi, en fait, là, t'entends dans le morceau, t'as des samples de musique japonaise. Mm-hmm. T'as un moment un vieux truc de jazz, là, je passe avec une voix qui fait c'est si bon. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'il te balance des insanités tellement vénères. Et quand t'as la voix qui fait c'est si bon, ça me faisait marrer. Et le refrain, bon, le refrain, on va pas la peine de le mettre maintenant, mais il est bien violent.
Il est bien,
ouais. Ah ouais, et puis les phases, voilà. Mais ça, c'était en 2007, du coup, c'était. Okay. Sur mon tout premier projet, donc. Et puis surtout, j'utilisais un sampler qui s'appelait l'ASR10 pour faire les prods. Et du coup, j'avais lu que Necro et Reza l'utilisaient, alors j'avais économisé, tu vois, je m'étais acheté ce truc-là.
Là aujourd'hui, t'es passé full do, tout Cubase.
Ouais, moi, je suis un enfant de la souris, moi, c'est. Ouais. Tu vois, en plus, je connais pas les raccourcis clavier, c'est insupportable. Alors, tu me vois travailler, je suis là, je prends un truc, je le mets là. Les mecs, quand je taffe avec un studio, ils en ont marre, au bout d'un moment, ils pètent le. Je vais prendre ça, et je le mets là, et là, en fait. Bref.
Vas-y, deuxième extrait, Painkillers. Cette fois, c'est sur ton premier. Ah non, tu disais que c'était plutôt le deuxième album officiel en 2013.
Troisième, en fait. Après, troisième. Le premier projet, c'était. En fait, on peut dire que les deux premiers projets, c'était pas vraiment des albums, même si. Ouais. Si, en fait, mais c'est surtout que là, c'était que des featuring avec des rappeurs et ouais. Puis avec des prods à moi. Sur celui-là, on va dire qu'il y a plus une direction. Encore que à chaque fois, j'aime bien raconter une histoire sur les scuds, tu vois. Mais sur celui-là, il y a plus de morceaux instrumentaux et c'est là où je m'ouvre un peu plus au son, un peu plus onirique, on va dire, un peu plus. Bon, alors là, celui-là, le mixage est bien, bien crado. Parce que même sur le premier, hein, remarque. Mais en fait, là, pour le coup, là, celui-là, j'avais pas de. Là, le premier album, je l'ai fait, tu vois, dans ma chambre chez mes darons. Donc, j'avais des enceintes quand même et tout. Et puis là, par contre, je déménageais tous les 3-4 mois à Paname. Donc, du coup. Le deuxième, ce projet-là, il a été fait vraiment avec des enceintes pourries et tout. Mais bon, après, tu vois, ça valait le coup aussi, ça a donné l'ambiance de l'album.
Allez, on s'écoute
Painkillers. C'est pas l'album de la maturité.
Ça va, c'est pas honteux non plus dans le bas, peut-être que c'est un peu moins
maîtrisé.
Ouais,
non, là, ouais, après, bon, c'est sûr, de toute façon, c'était. Mais ce que je veux dire, c'est en tout cas, c'est là où je commençais à plus faire des ambiances, en fait, qui sont plus portées sur les émotions, moins que la brutalité du rap new-yorkais, tu vois. Et à faire des trucs qui sont un peu plus chépère, si tu veux. Dans l'album, t'as des trucs qui partent en breakcore, hein, des trucs, tu vois, là, je m'autorisais des.
Oui, parce que là, c'est pas chépère. Hein.
Non, c'est chill, c'est ouais, chill, c'est mais c'est
chill,
pas
chépère. Après, si t'écoutes l'album, en fait, là, c'est parce que c'est le morceau qui a le plus tourné sur ce projet-là. Mm-hmm. Mais après, tu verras, c'est un peu chépère parce qu'après, t'as une voix un peu étrange qui arrive, faite à moitié au vocodeur, en fait, qui parle de choses très tristes, mais avec des. Tu vois, avec des reverbs qui partent en couille. C'est un morceau, celui-là, qui parle un peu de la léthargie. La léthargie ou mélangée à la déprime, mais dans une ville tu sais, qui bouge. Mais après, t'as des morceaux qui sont plus chez père, en tout cas, et puis voilà.
On pourra en écouter, et on termine juste avec cette intro, avec un troisième morceau plus récent, celui-là, avec Senbei cette fois.
Ça le voit, c'est extrait du premier album, où c'est Senbei, c'est un autre beatmaker, en fait, à qui je fais un big up aussi, avec qui on a fait un premier album en duo il y a. Putain, quelques années maintenant. On sort le deuxième dans une semaine.
Ouais, c'était 2019, coup,
voilà.
Monsters.
Et voilà. Et ça, c'est un peu le morceau. Là, tu vois, ça descend plus dans le bas, justement. Et là, on est plus sur un truc qui s'affilerait à la basse musique.
Ouais.
Mais avec une base hip-hop quand même et tout. Donc.
Allez, More Pressure.
Yeah.
Ouais, changement d'ambiance un peu, mais on reste quand même dans le... On sent la... C'est une transition, en fait.
Ouais, c'est ça, mais j'ai essayé de te choisir trois morceaux aussi ouais. qui sont connectés les uns ouais. envers les autres un peu, histoire que ça, ça fasse pas non plus... Voilà, là, on reste dans le boom-bap, mais tu sens que le son, il descend plus dans les basses, ça ouvre plus à la... En fait, le morceau, il part en drum and bass après, tu vois, et tout, donc... puis que ça descend plus dans le bas aussi, ça s'ouvre plus sur les synthétiseurs, tout ça, sur les effets, sur les voix, les trucs comme ça. Puis après, il y a des morceaux, tu vois, on en écoutera plus tard, où ça peut passer du flamenco à la drum and bass, tu vois. Donc voilà. Mais là, en tout cas, j'ai essayé de te prendre trois morceaux qui sont à peu près cohérents les uns avec les autres, tu vois.
Ça, c'est, tu as l'habitude de faire des albums, la tracklist et tout, tu vois. Il faut que ça s'enchaîne bien.
ouais, c'est les trois premiers qui venaient. Mais c'est ça, ouais. Après, c'est vrai que ça aurait été intéressant de faire. Bon, de toute façon, on pourra en écouter.
Oui, bien sûr.
De passer un peu du tout au tout.
De toute façon, c'est ce qu'on va faire. C'est, les gars, une première partie où on va parler justement de cette approche spécifique du hip-hop parce qu'elle est pas commune, ou du moins dans le rap commercial, entre guillemets, mainstream d'aujourd'hui, on la voit moins. Ce côté, justement, à la fois de multiplier les inspirations et puis de faire du hip-hop instrumental, mine de rien, c'est pas une pratique si courante en France, en tout cas. Mais j'aimerais bien, pour commencer ça, justement, que tu nous parles un peu de comment tu découvres cette scène. Alors, c'est vraiment le premier truc qui trigger comme ça, c'est Il Bill, vraiment.
Alors, tu parles du rap, pas instrumental, du coup.
Non,
du
ouais, je parle de manière générale. Ton rapport au hip-hop, tu vois, au début, après on parlera spécifiquement.
Au tout début, je te dis, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment la compilation. Bon, après, mais la compilation. Merde, comment elle s'appelait, merde. En plus, je l'ai réécouté des tonnes de fois. Qu'il y avait dans Groove, je sais pas si vous venez de ce magazine, hein,
ouais.
Il y avait une compilation qui t'avait filé avec la pochette noire et blanche, où il y avait 10 gamas dessus, il y avait la Brigade Lunatique, il y avait Section Fou, okay. Il y avait plein de trucs. Et en fait, mes parents, eux, m'avaient fait écouter plus, par exemple, Metak et Matt, c'est le premier album de rap que j'ai écouté. De la piste 1 à la dernière. Et en fait, le côté storytelling, déjà, ça m'avait beaucoup plu, tu vois. Et en fait, mes parents, ils écoutaient ça, NTM ou IAM.
Ah, tes parents écoutaient ça ?
Ouais, bah, okay. Metak et Matt, je l'écoutais, enfin, c'est mes parents qui l'écoutaient, tu vois. Okay. Donc, et après, du coup, c'est vraiment cette compilation-là, de Groove, où là, t'avais vraiment t'avais autant du rap super vénère que des trucs plus mélodieux, tout ça et tout. Et ça, je me l'écoutais en boucle. Et en fait, je m'intéressais un peu à tous les groupes. En fait, ce qui était cool avec les magazines comme Groove que de l'époque, c'est que ça coûtait pas très, très cher. Et tu pouvais quand même, tu voyais, en fait, ils te filaient quand même des sampleurs avec des compilations. Donc, tu pouvais, au-delà des images, des interviews, tout ça, tu pouvais aussi, en fait, entendre directement le son de la tête des mecs que tu voyais.
T'avais un CD avec ?
Ouais, il y avait un CD avec.
En fait, c'était une compilation, c'était un magazine et t'avais des sampleurs et tout.
Genre avec des Prodigy Namor, DJ Enough ou des mecs comme ça, quoi. C'est marrant parce que, Groove, pour les Anriens, c'était un peu, tu vois. C'était ouais du rap de petit, t'as vu.
Rapalo un peu.
Ouais, non, pas rapalo, tu vois, mais c'était il y avait Groove, il y avait RER, Radical, il y avait l'affiche. Mais pour les gens du hip-hop des 90s, vraiment, Groove, c'était déjà, vas-y, ça a été récupéré, tu vois, c'est bon, c'est commercial, on écoute app, tu vois. Et on était cons, hein, mais ouais, c'est marrant de voir que ça, en fait, ça a vraiment marqué des gens.
Cette compilation particulièrement, en tout cas, ouais. Parce que en plus c'était une compilation rap français et pour le coup, là, il y avait vraiment, il y avait 16 rimes. C'est la première fois que j'ai entendu sur cette compil.
16 rimes.
Et en fait, tu vois, quand
Lunatic,
tu prends, celui-là, par exemple, tu vois, ce morceau, je m'étais pris. Et en fait, après, j'ai un peu lâché le rap français, tout ça, même tout le rap, en fait, pour aller plus dans le punk rock. Mmh. Et après, en fait, tu vois, moi, j'ai grandi dans un quartier, dans une maison où autour, il y avait des immeubles. Et en fait, j'ai un pote à moi qui, en fait, ça, c'est marrant parce qu'on dirait vraiment comme dans la haine, qui s'appelait Pablo, et en fait, qui mixait depuis sa chambre, et je le voyais depuis ma fenêtre. Et le mec, en fait, vraiment, il avait mis cette
platine.
Ouais,
ses enceintes à la fenêtre.
Je dis, ah ouais, non, mais en plus, il ressemblait un peu à Cut Killer. De loin, tu vois,
de loin.
Rasé, latino et tout. Et ça m'avait fait marrer parce que, et du coup, ouais, lui, alors, par contre, quand, après, on a fait connaissance, tu vois, et quand j'allais chez lui, lui, il s'achetait plein de vinyles, tu vois. Mm. Il était un peu plus âgé, et là, du coup, c'est là où tu sais, il s'achetait les lunatiques, même les LIM, les compilations tous illicites.
Ouais.
Tous les trucs comme ça, tu vois, les compilations hostiles. Donc là, tu vas te poser. Et puis en fait, là, c'est là où. De part, en fait, c'est que les compilations, c'était pas mal quand même pour découvrir plein de trucs.
Ouais,
et puis les potes DJ encore plus, tu vois.
Le rap français qui a pété vraiment, c'est à partir justement, enfin, où ils ont pris vraiment le virage un peu commercial, où ça a commencé à vraiment parler à beaucoup de gens, c'est avec la compile de la haine, avec Hostile Hip Hop, tous ces trucs-là. C'était que de la compile, en fait. Première Classe en 98, tout ça. Et c'est là qu'on s'est dit, ah ouais, en fait, il y a un potentiel même commercial, ça peut plaire à plein de gens, tu vois. C'est sorti un petit peu Des trucs vraiment underground.
Et tu disais ensuite que tu découvres les Ricains.
Et après les Ricains, ouais, c'est par rapport à un pote à moi en fait, que j'ai rencontré sur un skatepark d'ailleurs, c'était marrant. Et en fait, qui lui, lui en fait, était à fond dans Mobb Deep, Reza, tout ça, le Wu-Tang. Et là, c'est là où, aussi, t'avais Merdy Diamond Tricks aussi. En fait, tout ce qui avait des samples un peu sombres, moi, t'es un peu, qui jouait sur, qui proposait des trucs justement un peu étranges ou différents, tu vois, c'est-à-dire.
Et c'est à ce moment-là vraiment où t'accroches.
Ah ben là, j'accroche carrément parce que c'est vraiment le côté musique de film en fait, tu vois, musique de film,
ambiance
avec des instruments, du clavecin, des trucs comme ça. Là je me dis putain, ça tue de mélanger, c'est des trucs aussi, j'aimais bien les films d'horreur déjà à l'époque, et donc tu retrouves un peu les musiques, mais en fait c'est pas forcément des musiques horrifiques, genre t'es je sais pas moi, le ouh, des trucs comme ça, mais c'est vraiment des trucs,
pas de Térémine,
ouais c'est ça, okay, j'adore le Térémine, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment le côté puis ouais, nécro, ce qui en fait, surtout que c'est avant tout pour moi un beatmaker et aussi un rappeur. Mais ces instrus, c'était vraiment le gars qui pouvait les sampler aussi dans les vieux films de cul des années 70 ou dans les, je sais pas moi, dans les rock, les scuds de rock psyché, tu vois, qui samplaient des orgues avec des hippies qui te chantent des trucs chelous, des chorales de hippies et tout. Et moi, direct, ça m'a parlé, tu vois, ce genre de truc.
Et qu'est-ce qui fait que tu mets à dire, enfin, tu te dis, vas-y, je veux faire ça moi aussi, je veux faire de la musique.
En fait, j'avais un groupe de punk rock à l'époque, il y a un moment, on arrête de faire ça. Et puis,
Tu faisais quoi dans le groupe de punk rock ?
Je jouais de la guitare, mais je jouais de la guitare et des fois du chant aussi, c'était rigolo, d'ailleurs, big up à mes potes. Mais surtout, le truc, c'est que je me retrouve aussi là, et puis je me dis, j'ai envie de continuer à faire de la musique, tu vois, mais. Et en fait, là, bah, tu te rends compte qu'avec avec Acid, c'était le logiciel que j'utilisais à l'époque. Tu vois, IJ, je l'avais utilisé, mais quand t'es petit, t'es sur le truc. Mais Acid, c'est le même concept, mais en fait, avec beaucoup plus de liberté, tu peux faire plein de trucs. Tu peux le craquer, en fait, si tu le retrouves craqué. Okay. Et puis là, tu vois, tu t'assembles.
Mais c'était un séquenceur aussi, ou t'avais des boucles intégrées ?
Non, c'était un séquenceur, t'avais pas de boucles intégrées. C'est-à-dire, mais par contre, tu pouvais prendre, découper tes samples, les pitcher, les trucs, et c'était vachement intuitif, en fait. Et là, je me rends compte qu'en fait, je peux me mettre à faire des sons dans ma chambre et tout, et en fait. Tu commences à te dire, au début, ce que tu fais, c'est que tu vas sampler les scuds des parents, tu vois. Donc tu descends, et puis il y a des. En général, tu vas dans les trucs de musique classique aussi, alors ils en avaient pas tellement que ça, mais. Ou les trucs de rock psyché, t'as des trucs de ouf à sampler. En fait, tu te rends compte que si tu découpes ce clavecin à ce moment-là, tu peux. Et donc voilà, c'est. Et après, bah, très inspiré du coup de Nécro, de tout ça.
C'est justement, parle-nous un peu de Nécro, Il Bill. Alors, j'entends quand tu me dis qu'il faut pas réduire ça au hardcore, mais en tout cas, on retrouve par exemple un truc commun, c'est le côté utilisé à fond de la bande-son de film, du giallo des années 70, des voilà, slashers, des trucs comme ça, de films d'horreur de série B. Ça t'a parlé ?
Ouais, carrément. Bah, c'est ça qui m'a directement parlé, plus les flows assez vénères. Donc. Qui se rapprochait aussi de toi dans le punk rock, t'as la dimension du hardcore. Le punk hardcore, c'est au final un son qui groove pas mal et qui est assez rue en fait. C'est un peu une branche du punk rock, tu vois, en fait, dans lequel on retrouvait un peu ce groove qu'il y a dans le rap, avec l'attitude aussi. Mm-hmm. Mais et en fait, dans Nécro, tout ça, c'est pour ça qu'il est beaucoup écouté chez les métalleux aussi, ou chez les mecs dans le hardcore, le punk hardcore, parce qu'il fait la jonction entre les deux. Mais sans que ce soit, comment dire, caricatural, ou tu vois, que ça fasse, soit wesh yo sur un truc de rock vite fait. Non, vraiment, tu sentais que c'est une musique de passionné, d'un mec qui est passionné par le métal et qui est passionné par le rap, qui écoute autant, tu vois, Slayer que Kool G Rap, par exemple.
J'ai toujours eu des ponts comme ça, notamment aux États-Unis entre
le métal. La compilation de Judgment Night, Judgment Night, par
bien
exemple.
Sûr. Mais c'est vrai que c'était ça restait une niche quand même, enfin c'était relativement underground cette approche. Ouais. Et en plus il y a une particularité, il y a un bouquin assez cool de Karim Madani qui s'appelle Jewish Gangsta et qui raconte justement ils sont de Brooklyn si je dis pas de bêtises, et il parle de cette époque en prenant justement les personnages de Il Bill et Nécro et puis d'autres aussi fictifs il me semble, et ils avaient une particularité, c'est qu'ils étaient juifs dans des quartiers principalement noirs et qu'eux aussi voulaient être des gangsters et voulaient montrer qu'en tant que juifs ils pouvaient être gangsters aussi, ils s'en sortiraient pas, se faire marcher dessus même en tant que minorité entre guillemets, et ça a créé tout aussi une espèce de légende autour de ce qu'ils faisaient, etc. C'est assez passionnant comme scène, et leur musique aussi pareil, bah elle était complètement viscérale, dégueulasse même parfois.
Nécro, il allait super loin quand tu vois que sur la pochette son premier album, tu vois quand même son oncle en train de se faire un fixe, et elle fait une pochette, tu te dis qu'est-ce que c'est, tu vois, t'es dans ton back rap, tout d'un coup t'as cette pochette avec une gueule d'un junkie, tu vois, en noir et blanc, avec un fer, avec une seringue dans la main, tu vois, avec écrit Nécro comme ça, c'est tout. Tu te dis qu'est-ce que tu vois, en fait là, normalement c'est dans les trucs, tu vois, dans les trucs de grindcore ou du black metal que tu vois des pochettes comme ça, t'es. Et en fait derrière ça c'était pas que du on va dire horrorcore, ça fait non, c'était en fait c'était aussi axé avec un pied dans la réalité en fait, et une approche à la fois de passionné musical de provocateur aussi, tu vois, et puis un pied dans la réalité de la rue. Alors moi, c'est plutôt le côté musical, parce que j'étais pas fasciné par le côté rue, ouais, ça me fait rêver, tu vois. Mais n'empêche que ça se ressent dans la musique, quand quelqu'un, je pense...
Ah, quand même.
Tu vois, ouais, c'est sûr.
Dans le rap, en plus.
Ah ouais, dans le rap, mais ce que je veux dire, c'est que dans le horrorcore, en plus, tu vois, parce que le horrorcore, ça peut vite être du théâtre aussi, tu vois.
Un peu clownesque.
Ce qui me dérange pas forcément des fois. Mais là, il y avait quand même une autre approche encore qui était.
T'as des morceaux justement que tu kiffes, de la clique Nonfiction ou Necro ou.
Tu peux mettre par exemple un morceau qui s'appelle Or Life. Alors celui-là, ce qui est marrant, c'est que l'instru est assez, on va dire, classique entre guillemets. Mais alors, ce que j'aime beaucoup dans ce morceau, c'est que en fait, c'est sur un piano super triste, tu vois, limite, c'est genre, c'est l'émotion. En fait, avec une batterie ultra violente, en fait, il déblatère que des punchlines, mais hyper gore dessus. Okay. Et j'aime bien le, tu vois. Le paradoxe entre le fait d'avoir une instru très mélancolique et tout, et puis en fait dessus c'est que de la dégueulasserie.
C'est un morceau donc de qui?
Donc c'est Necro et Bill, pour le coup, qui sont frères, et en fait.
Ok, on s'écoute. Our Life, Necro et Bill.
Tu vois, même que la basse quand elle arrive, ça fait bleu. Tu sens que le mec a une approche assez frontale.
On est en 2003 là. Actually, you can't make me do nothing. I might decide to. I used to mush thugs, then now I push drugs. I knew a kid that put slugs in his own mug. Used to show me his guns. Ain't a cat that knows me his son. Remember violence, I'd only won. I used to watch out my pops to treat a girl and beef with the world. He had a bone to pick, that's why my dome is sick. It rubbed off on me, cause the apple don't fall far from the tree, G. You cats keep your distance, cause you're scared I might flip in an instant. When I was filled with innocence, I was still committing sins. Half of you cats are sweet like cinnamon. I shove a knife in your grin.
Mais ça c'est du rap new-yorkais normal en vrai.
Moi en tout cas, bref, c'est pour après peut-être que c'est, tu vois, c'est un morceau d'une instru assez classique.
Boucle de piano, c'est du Queens quoi, tu vois.
Mais en fait, c'est même dans la façon dont il rappe, tu sens qu'il dégueule un peu plus. Moi, il fait des trucs comme ça. Après, si tu veux qu'on en mette une autre de Necro, peut-être qu'il peut être plus marqué. Tu peux mettre Your Fucking Head Split.
Bah, c'est un grand classique, effectivement. Ouais. Allez, c'est parti. Tu sais comment j'avais découvert d'ailleurs ce morceau? Parce qu'ils avaient été, ça avait été utilisé comme instru pour l'armée des 12. Je sais pas si tu vois ce morceau. Et c'est comme ça que j'ai découvert
l'instru.
Allez, on s'écoute ça. Your Fucking Head Split. Yo. Yeah. Yeah, this the shit right here. Yeah, this makes me want to kill somebody. Turn this shit up. Real fucking loud. Drinking a bio at your pancreas. The fanciest cancerous. Talking lyricist. Pack a shank on the hips. You're a skanky bitch. Slit your wrist. Clitoris. If you're inhibited, I'll piss in your syphilis incubus. Mr. Death. Surgeon slice. You'll die really slow if you don't appreciate life. You're whack if you don't appreciate knives. The way your knife slices precise. It's trife. It's a demonic device. The chronic you light. Inhale. For those in jail. To those that beef get impaled and buried in snails. My brain's charred like burnt flesh. You're scarred. Ripping your breast apart. Digest your heart. Kid, you know you can't fuck with this. Don't you know that my sense too sick? Kid, you know you can't fuck with this. You might get your gold fucking head split. Ça me fait penser à un truc. Je sais pas, ce que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. J'ai du mal à me positionner. Par exemple, on l'associe parfois d'ailleurs à l'horrorcore. J'adore Cool Kiss, par exemple. Et en même temps, c'est un mec qui déblatère des saloperies absolument horribles. Et parfois, je sais pas comment me positionner vis-à-vis de ça. À la fois, je trouve sa musique géniale. En même temps, des fois, après, c'est tellement abusé parfois que tu te dis, vas-y, attends. Je pense avec du recul. Là, je sais que le mec est pas sérieux. Ouais. Mais parfois, ça pose question. Typiquement, tu vois des trucs sur les femmes, tu vois.
Bah, c'est vrai que Necro, pour le coup, c'est voilà, ouais, c'est dans le. Après Necro, voilà, c'est une surenchère de. En fait, c'est.
Vas-y, dis-moi.
Bah non, mais tout
le rap.
Tout
le rap.
C'est bien, c'est problématique. Misogyne. Mais en fait, c'est de la misogynie sur disque. Ouais. Parce qu'on sait très bien qui drive à la maison, tu vois. Et je pense que c'est un truc qui est plutôt admis.
En fait, c'est horrible d'ailleurs, parce que la misogynie, tu as raison, on la retrouve beaucoup, et pas que dans le rap, dans notre société de manière générale.
Ouais, non, mais je veux dire, le rap,
Oui, mais il y a une particularité, c'est vrai, je suis d'accord.
Mais vraiment, enfin, notamment le rap californien, tu vois, où t'avais des. Genre, rien que sur l'album de Dre, t'avais un morceau caché à la fin, qui s'appelait Bitches Ain't Shit, tu vois. Et Snoop, Ain't No Fun, The Doggy Style, tu vois, enfin, tout l'album, c'est ultra misogyne, en fait. Justement, c'est grand guignol, tu vois.
Mais paradoxalement, en fait, je vois le côté grand guignol, mais tu sais, des fois, c'est tellement violent. Il y a une particularité aussi de cette scène, elle est extrêmement sexuelle. souvent. Ouais. Ça aussi, tu sais, ça change quand même.
Tu parles de l'horrorcore ou du rap?
Ouais, en fait, je parlais de Cool Keith surtout. J'avais surtout en tête Cool Keith.
Après, ouais, parce que Necro et Cool Keith, je crois qu'ils ont fait des albums un peu qui tendent vers le porno rap, en fait.
Ouais, absolument.
Alors moi, j'ai toujours pris ça aussi avec un second degré, tu vois. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a des gens pour qui ça fasse un frein total. Ouais. Libre à chacun, tu vois, d'avoir
en fait, c'est même pas pour avoir une position morale, mais c'est juste dire, tu sais, ça fait un truc bizarre de me dire que j'adore ça et en même temps qu'il dit des trucs absolument horribles. Et je sais pas comment
ça fait. En fait, ça fait partie du contrat.
Ouais.
Tu vois, l'intérêt aussi, c'est que en France, on va pas se mentir, il y a pas beaucoup d'anglophones. En tout cas, à l'époque, tout le monde blastait des trucs, on comprenait même pas ce qu'ils disaient, tu vois.
Ah, moi le premier, hein, je connaissais, à force t'écoutes, t'entends des phrases et tout, mais c'est vrai qu'il y a des pupures sur
ils vont très loin
des fois dans les trucs.
Moi je kiffais, par exemple, quand j'étais plus jeune, genre en 94, j'écoutais genre des albums de MC8, tu vois, ouais. Et lui, il prenait beaucoup de samples de jazz, de trucs comme ça, et en fait, il disait des trucs horribles.
Des fois, c'est ouf, tu sais,
contraste. La musique est ultra douce, tu vois, et il t'explique en te parlant gentiment que bah, il va prendre ton argent, et s'il doit te buter pour ça, il le fera, et s'il doit violer ta famille pour ça, bah, il le fera. Sauf qu'en fait, c'est tellement doux comme son que tu peux l'écouter dans le salon, tu vois. Mmh. Moi, j'écoutais ça, mes darons, ils étaient là, oh, c'est sympa, tu vois. Et en fait, ouais, ça a toujours fait partie du contrat, avoir des paroles ultra vénère, ultra cru sur des instrus un peu taffés. Et après, des fois, bah, ils avaient des paroles vénères sur des instrus vénères. Et là, le contrat était un peu différent, tu vois. Mais,
Non, mais c'est sûr. Après, ouais, je peux comprendre. En tout cas, pour toute cette scène-là, et particulièrement Necro, je pense qu'aussi, c'est, pour le coup, il se qualifie lui-même comme du death rap, du brutal rap. Ce qui est aussi hérité, tu vois, de l'imagerie des films d'horreur et tout, et dans les films d'horreur en fait souvent parce que c'est ça en fait, c'est là qu'il a implié, c'est plutôt la limite en fait de savoir est-ce qu'on est dans le film d'horreur ou est-ce qu'on est dans le truc qui peut déranger, je pense, des fois, et c'est normal. Après, bon, voilà, si en fait Necro il passe des albums à t'expliquer comment il va te tuer, t'éventrer, littéralement, mais en plus il a un vivier de punchline avec ça. Bon, après on va peut-être arrêter de parler que, mais en tout cas, et c'est bon, j'imagine bien, tu vois, qui tue pas un mec tous les jours comme ça.
C'est peu probable, effectivement.
Mais après, bon, voilà, c'est vrai qu'au niveau moral, disons que bah, c'est de la musique, en tout cas, et faire écouter, pour ceux qui comprennent les paroles, plutôt aux adultes. C'est la musique qui est des gens qui peuvent avoir du recul là-dessus, en tout cas.
Mais c'était aussi une époque où il fallait que tu sois, qu'on puisse te mettre dans une catégorie, quitte à mettre tous les potards à fond, tu vois. T'avais genre les rappeurs, tu sais, les rappeurs un peu rorty sexuels, tu vois, qui parlaient que de cul sur tous leurs albums, les rappeurs un peu gore, les rappeurs gangsta, et tu sais, c'était vraiment monothème, tu vois, vraiment. En fait, il y avait pas beaucoup de.
Donc c'est moins le cas aujourd'hui.
Ouais, bah la preuve, déjà, on a quelqu'un devant nous qui peut aller un petit peu partout, tu vois, et je pense que ouais, ça c'est un peu plus. T'as moins besoin de te catégoriser, de t'auto-catégoriser dans un seul style pour être identifiable, tu vois. Et les mecs, ils tentent des trucs, quoi.
Peut-être que pour illustrer un peu cet amour que tu avais pour cette musique, on peut mettre, parce que voilà, je le disais tout à l'heure, en 2007, sur ton premier LP, y a un featuring avec Kill Bill. On peut se mettre un extrait.
Alors, t'as le morceau, du coup, t'en as deux. C'est I'm from Brooklyn, voilà, ouais. Qui est avec Brooklyn Academy. Et l'autre, c'est le remix. Donc, ça, c'est un morceau où ils ont posé sur la prod originale.
Ouais.
Et l'autre, qui est le remix que j'avais fait pour Raekwon et lui. Et qui du coup avait
fait un remix pour Raekwon.
C'est pas mal quand même.
C'était pas un remix officiel, encore une fois. C'était pour le concours de remix. Mais il avait en fait, c'était de là que j'avais pu lui envoyer des prods après en fait. Donc tu peux mettre celui que tu veux des deux.
I'm from Brooklyn.
Allez, vas-y.
Allez, c'est parti.
C'est un morceau qui date quand même. C'est marrant parce que ça me ramène vraiment en 2007. J'ai dû le faire en 2006, donc j'avais 17 balais. Ouais. Ça remonte.
Billions and billions, I beat Brooklyn Bill. It was Brooklyn where my uncle got hooked on krills. A billion warped thoughts traveled through the grime in his mind. A billion wars fought between crime, design and the divine. A billion seconds ago, it was 1959.
Ça me fait penser à une question peut-être bête, mais tu vois la diff quand tu collabores entre les Ricains et les Français, même ne serait-ce qu'en termes de flow, de presque de professionnalisme, j'en sais rien, tu vois, ou de présence vocale, de trucs comme ça. Pour toi, le niveau est similaire.
Ça dépend vraiment des personnes, en fait, je pense, tu vois. Et après, comme Kill Bill, qui est quand même, pour moi, un des grands, tu vois, du rap. Bon, là, mais non, je pense que ça dépend des personnes. Après, c'est comme partout, si un rappeur français, s'il a travaillé son truc, tu vois, ça va direct bien rendre. Des fois, t'as des mecs qui sont plus entre les deux. Mais bon, après, ce qui est, c'est bien d'avoir aussi, tu vois, les morceaux, en fait, dans une carrière qui sont pas forcément peut-être les morceaux où l'artiste est le plus mature. Mm-hmm. Mais des fois, il y a des vieux morceaux qui sont plein de défauts, mais qu'on apprécie plus mm-hmm. aussi. Donc, des fois, tu vois, la maturité, en fait, elle apporte des trucs, mais elle en enlève certains d'autres. Enfin, tu vois, c'est un peu une banalité ce que je dis, mais en fait, c'est vrai. Mm-hmm. Des fois, il y a des artistes dont tu kiffes vraiment les vieux morceaux et tu sais que leur dernier album, il va être mieux mixé, mieux interprété. Peut-être
il n'y aura pas la même énergie.
Mais il y aura même une ambiance, un truc. Ouais. Après, peut-être que c'est très subjectif aussi par rapport au moment où tu l'as écouté. Peut-être, mais je ne sais pas. Parce que c'est de la nostalgie, je pense.
Non, je crois que c'est très valable aussi pour les musiciens, pour les instrumentistes, les compositeurs, etc., qui parfois, en se perfectionnant, ont l'impression de perdre effectivement de la spontanéité, comme tu disais. Bah, et une forme d'avoir une lucidité trop importante et plus de laisser aller, tu vois, nécessaire parfois aussi à la création. Bah,
surtout dans le hip-hop en général, où on a plutôt tendance à mettre en avant, ou en tout cas à retenir les premiers albums des artistes. Parce qu'après, en fait, les mecs, ils arrivent, ils ont généralement rien, juste la gnaque, l'énergie et tout, ils sortent des classiques. Et après, une fois qu'ils sont installés et qu'ils ont des gros studios, des machins et tout, ils n'arrivent plus à, tu vois,
ouais, c'est peut-être à revenir avec... Ta vie aussi, où t'as du...
Ouais,
c'est ça. Un truc que, tu ressens, toi, dans ta carrière, de dire, il y a des moments où peut-être que je me suis trop compliqué les affaires et que j'ai perdu quelque chose.
Moi, c'est plus ce que je regrette, c'est de m'être pas assez compliqué les affaires.
C'est
des fois, d'avoir sorti des albums où là, je te jure, où il y a des clics, justement, on parlait tout à l'heure parce qu'ils me disaient qu'ils avaient tenté des clics dans le casque. Et que moi, en fait, j'ai des morceaux où il y a littéralement des clics, des sons mal découpés. En fait, sur le coup, je dis, oh, c'est pas grave, l'émotion, elle est là, vous ne me rendez même pas compte. Et puis, en fait, soit tu le joues en live sur des grosses enceintes.
Et là, tu l'entends bien.
Mais bien comme il faut. Ou alors, je sais pas, moi, tu réécoutes un album à toi, tu sais, genre des années plus tard, et tu oh putain, quand même. Il y a des moments où tu t'en fous et des moments où tu dis,
parce que j'ai encore les sessions, non, je vais le refaire.
Non, ouais, c'est une souffrance limitée. Après, en fait, ouais. Parce que moi, je me réécoute beaucoup, en fait. J'aime bien réécouter mes propres morceaux, ouais. Okay. Et parce que, alors, beaucoup de gens qui n'aiment pas se réécouter. Mm-hmm. Après, je fais pas que m'écouter. Mais c'est vrai que, par exemple.
Je fais pas que m'écouter toute la journée, rassurez-vous.
Bah, limite, des fois. Bon, bref. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que des fois, ça permet de repartir dans des moments de ta vie ou des moments de. Mm-hmm. Tu vois, en fait. Et donc, ouais, j'aime bien faire ces espèces de machines temporelles que ça peut faire. Mmh. Mais des fois, du coup, tu te dis, ah ouais, en fait, là, j'en avais strictement rien à branler. Donc, ce serait plus de ne pas m'être pris assez la tête à des moments sur des choses, malgré le fait que, à chaque fois que je dis malgré le fait que, je ne suis pas sûr qu'on dit malgré le fait que, mais si.
Si, c'est bien. Ouais, c'est le malgré que qui irait pas.
Voilà, c'est ça. Très bien, merci. Et du coup, que ça peut donner aussi un son particulier qui est inhérent à chaque album, en fait. Mais entre, tu vois, l'excuse de dire « Ah, ça sonne punk !» et en fait, c'est dégueulasse, il y a,
la frontière,
tu vois, que des fois, j'ai franchi allègrement.
Et alors, justement, comment tu passes ensuite à ce son un peu plus doux, tu disais Bouddha Bar, etc., et puis à te dire « Je vais faire de la musique instrumentale. »
C'était sarcastique quand j'ai dit Bouddha Bar.
Ouais, on est désolé pour les gens du Bouddha Bar,
qu'on aime beaucoup.
En fait, c'est les compilations Bouddha Bar, plus que les endroits, même si je crois que dans les endroits, ils passent
les compilations.
Ah, mais en fait, parce que c'est un peu, le Bouddha Bar, c'est un peu le cliché de la musique,
chill,
lounge, tu vois, je veux dire, avec des samples granuleux, ce qu'on appelle maintenant lofi, tu vois, parce que le terme, même si en fait, c'est pas exactement la même chose, mais tu vois, bah c'est par là, justement, par des gars. Par exemple, t'as un mec comme RJD2, en fait, qui a sorti pour moi un des meilleurs albums d'abstract hip-hop, qui a sorti l'album Dead Ringer, un moment sur lequel tu retrouvais des rappeurs, et fait, c'est le format moi que je préfère, c'est-à-dire c'est des albums où ils te racontent des histoires avec des morceaux instrumentaux, mais ils ne délaissent pas non plus le côté rap, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que je suis tombé sur des morceaux de lui et de Blockhead, qui est un autre beatmaker qui est vachement dans l'abstract hip-hop, qui faisait avec un gars qui s'appelait Merde... Aesop Rock. Ouais. Aesop Rock qui sortait Daylight, je crois, cet album avec Blockhead, donc tu as un producteur, un rappeur. Et là, en fait, je me mets à écouter Blockhead, qui fait des albums instrumentaux aussi. Et je me rends d'ailleurs que je me suis, dans un beatmaker dont je me suis beaucoup inspiré dans mon travail d'abstract hip-hop. Et là, tu vois, c'est ce pont, en fait, qu'il y a avec les morceaux avec des rappeurs, mais des morceaux déjà qui sont un peu plus chépères, dans le sens où des fois, il se permet, pendant une minute, deux minutes, t'as plus de rap, t'as un sample qui se balade, tu vois, qui raconte une autre histoire avec l'instru. Je pense à notamment un morceau de RJD2, par exemple, qui s'appelle June. C'est un morceau avec.
S'écoute un extrait.
Bah alors, le morceau s'écoute un peu, en fait. C'est un morceau de 5 minutes. Mais ce qui est intéressant dans le morceau, c'est qu'en fait, t'as le gars, c'est avec Copyright qui rappe avec lui. T'as Copyright qui rappe au début du morceau. Après, pendant 5 minutes, le morceau, il part qu'instrumental. Mmh. Et à la fin, il repose un couplet. En fait, le thème, il fait un peu. Enfin, bon, voilà, je veux pas. C'est un thème assez triste, en fait. Mais en fait, pour moi, c'était un peu l'image dans l'instru de la vie. entre le premier moment, ce qu'il rappe, il vit une vie, puis à la fin, il a fait la paix avec ce qu'il rappe au début, en fait. Mmh. Et en fait, cette façon de raconter des histoires de manière instrumentale, j'y passe par des morceaux comme ça, où il y a d'abord un rappeur, mmh. mais où c'est des morceaux qui se permettent des incartades, tu vois, des trucs un peu bizarroïdes mmh. comme ça. Et après, je me mets du coup à ne plus considérer que l'abstract hip-hop est une musique de trentenaire bouffeur de sushis. D'ailleurs, j'arrive bientôt à 30 ans, et c'est ce que je me dis à l'époque.
Et t'adores les sushis. Ah, merde.
Ça, je la fais à chaque fois, la blague. Je crois que dans toutes les interviews, je l'ai fait. Donc...
le running gag. Bon, on peut s'écouter un extrait de June de RJD2.
En fait, si c'est ce que t'as raison, voici. Ouais, voilà,
pardon,
c'est un morceau. C'est que c'est vraiment dans le morceau, il rappe au début. On et va... puis après, pendant on... tout le morceau, ça part.
On peut faire des petits sauts, tu vois. RJD2, drop that shit so I can drop my thoughts. Drifting away and depressed all within listening range. Nah, but for real, I got so much shit on my mind. From fake motherfuckers to my future, I'm trying to get in line. Ok, donc là ça rappe, j'avance un peu.
T'as tout le morceau comme ça, t'as plein de samples qui vont s'ajouter. T'as une guitare électrique qui va débarquer d'un moment nulle part. En fait, t'as plein d'instruments. Le morceau est parti d'un point A. Il part dans 100 000 trucs, mais en fait, tu sens qu'il y a une volonté de raconter une histoire, pas juste d'encastrer ouais. des samples entre eux, pour après finir sur une conclusion. Tu vois, la guitare qui arrive, là, des trucs comme ça. C'est des trucs que tu retrouves chez DJ Shadow aussi, des trucs comme ça.
J'ai encore avancé. Ça revient.
Il parle de l'histoire, si je me souviens bien des paroles, sur le fait qu'il a perdu son père le jour de son anniversaire, enfin un truc, c'est triste. Okay. En fait, et la vie qu'il a vécue au milieu, et puis à la fin, comment il a fait, entre guillemets, la paix avec ça. Mmh. Mais bon, voilà, c'est un morceau qui est assez, au-delà des paroles, tout ça, qui est assez, je trouve, enfin tu vois, c'est un bon concept, en fait, et surtout qui est super bien réalisé. C'est-à-dire que le morceau, il est triste, mais il n'est pas que triste, en fait. Il y a un côté, tu sens dans l'instru qu'il y a des moments où il est en colère, d'autres où c'est plus, enfin tu vois, c'est pas que dans le sombre aussi, il y a des moments plus lumineux. Et en fait, ouais, ça c'est un morceau comme ça qui m'a déjà beaucoup touché. Me dit ouais, en fait, ta limite, en fait, des fois de faire plus que de faire la partie du milieu, en fait.
Ouais. Puis, oui, voilà. Parce qu'en fait, si tu restes sur l'horrorcore et des trucs un peu vénères, bah, en termes d'ambiance, l'horrorcore c'est très, c'est dark en fait. Mmh. Et je pense
c'est là où Nécro, par contre, ce qui était cool, c'est qu'il avait des samples de rock années 70, des samples de ouais. tout ça. Mais voilà, en tout cas,
mais tu vois les albums genre, je sais pas, les Grave Diggers ou des trucs comme
ouais,
ça.
Voilà, t'es dans le pur.
T'es dans le dur, quoi, ouais, tu ouais. vois. Et c'est pas très lumineux aucun moment.
Bah ouais, là, de toute façon, là, t'ouvres à la porte de la maison hantée, hein, tu sais où tu vas. C'est pas l'attraction, c'est l'attraction.
Mais du coup, le style horrorcore en France. On n'a pas eu des masses en vrai de rappeurs français.
Ouais, si, il y en a un quand même. Alors,
Est-ce que. C'était une inspiration aussi de la clique Néochrome, Al Capote, Seth Gecko.
Non, même avant ça.
Ils ont flirté avec ce style-là à des moments, c'est vrai.
Ouais, moi, le morceau qui vraiment pour le coup s'inscrit là-dedans, que je retiens, c'était le premier morceau d'Arsenic.
Okay.
L'Enfer remonte à la surface sur Hostile.
Qui était sur Hostile d'ailleurs, qui ouvrait la compilation aussi.
Ouais, et qui était incroyable en plus, bien au niveau des flows que.
Un extrait ?
Ah ouais, bah vas-y. Mais je veux dire, ça c'est 97. Après, il n'y a pas eu grand-chose. Hein.
En fait, t'avais un rappeur de Bordeaux, t'as toujours un rappeur de Bordeaux qui s'appelle Seth. Qui est écrit en chiffre romain, pardon, qui lui a exploré un peu aussi pas mal de facettes de ce style-là en France. T'as mon groupe Drugs Brigade, hein, vu qu'on a aussi, on n'a fait pas que de l'horrorcore, mais on a fait certains morceaux qui s'apparentent un peu à ce style-là.
Et mais ça, du coup, c'était déjà post-2000, tu vois.
Ah oui, non, mais après, on s'est inspiré de gens. Ouais. Tu vois, après, moi, t'as vu, du coup, le rap, comme je te dis, mon premier skate sortait en 2007, donc il y avait plein de choses qui s'étaient fait avant. Et donc, forcément, tout ça reste des inspirations de ce qu'on a écouté aussi.
Vas-y, remonte.
C'est quoi le morceau d'Arsenic ?
L'enfer remonte à la surface. Bah, déjà, bon. L'enfer remonte à la surface.
Allez, c'est parti.
Ça démarre direct avec. Je crois que c'est le Joker, je crois, ou.
Direct, t'es dans l'ambiance. Ouais. Limite à la porte de la maison, tu sens. Je me demande s'il n'y a même pas le bruit. As-tu jamais dansé avec le
diable au clair de lune ? Je crois que c'est Jack Nicholson dans le premier Batman. Hein.
Ouais. Je demande toujours ça
à mes proies. Ah, possible. J'adore le son de cette phrase.
Les coups de feu, les hurlements.
Je crois que c'était le son qui ouvrait la compile.
Ouais.
Du coup, là, c'est parfait.
Et là, quand Lino il arrive, là, c'est.
Un nouveau sacrifice de pute pour l'MC, nouvel holocauste. La horde se bosse, la dose, la peste en holocauste. Là, j'accoste la version à mon poste. La version qui guide mon geste manifeste. Détruit ta rime indigeste. Est, ouest, cut sur scud du sud au nord. Si j'étais Terminator, tu serais Sarah Connor. Connor à l'hyper, dites le sniper, maintenant du Catman. Elle en pue Batman et fout la merde dans le monde de Scatman.
Altman.
Elle tue l'instru.
Elle chante, mais le morceau. Le mec, après, Lino, à la toute fin du morceau, il repart sur un autre couplet. Et là, c'est Kenzie qui lui dit arrête, arrête. C'est bon, ils ont payé pour un seul morceau.
Un morceau légendaire. T'as le mec qui se met à rapper en plus, tu dis oh, il en a sur le capot encore. Et putain, le mec dit arrête. On en garde pour la prochaine.
Et alors, toi, quand est-ce que tu te mets à faire cette musique plus instrumentale? Est-ce qu'on peut écouter un extrait?
On pourrait dire que sur. Sur l'album Lullabies for Insomniac, là, c'est là où vraiment l'album est vraiment marqué, tu vois, du début à la fin par ce style-là plus instrumental. T'avais quelques morceaux avant, sur l'album d'avant, qui amorçait un peu ce style-là. Sur Lullabies for Insomniac, c'est un peu le deuxième morceau, par exemple, que je t'ai fait écouter.
Un écouteur, ouais.
Et après, là où je suis vraiment à fond dans ce truc-là, c'est sur l'album Let the Ghost Sing, qui est sorti chez Jarring Effect. Qui est Jarring Effect, qui est un label de Lyon, d'ailleurs, tu en parlais de Lyon tout à l'heure.
Très belle ville.
Très belle ville. Et qui du coup, eux, étaient plus, tu vois, des groupes comme Hyton, Ezekiel. Donc, qui venaient pas, même s'ils n'étaient pas fermés au rap, mais qui ne viennent pas, pour le coup, du tout du rap, et qui m'avaient signé pour cet album-là. Et voilà, donc, du coup, là, pour le coup, je crois que tu as un morceau rap sur l'album. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, l'équilibre morceau rap, morceau abstract, c'est inversé. Ouais. Tu vois, c'est qu'à un moment, tu avais 90% de morceaux de rap, deux morceaux abstracts. Après, c'est là, puis à la fin, c'était un morceau de rap pour.
Et t'as des gens parmi ceux qui t'écoutaient qui te l'ont fait remarquer, ça, en mode. Changé.
Bah ouais, carrément. Ouais. Après, en fait, il y en a qui ont suivi aussi, parce qu'en fait. Ouais. Mais en même temps, vu que j'ai pas non plus une. Tu vois, c'est pas comme si j'avais des millions de followers avec les mecs qui t'insultent carrément. Donc, en général, ça reste des passionnés qui écoutent ma musique, tu vois, et qui sont ouverts en général. Maintenant, c'est vrai que ceux qui étaient à fond dans le rap pur et dur de mes deux premiers scuds, ils peuvent me faire remarquer. Mais même là, c'était du rap pur et dur, mais un peu du rap de. Je sais pas comment dire, tu vois, de. Nécro, Il Bill, tout ça, tout le monde n'écoutait pas ça ici en France. En tout cas, tu vois, c'était un truc quand même déjà de mecs qui font le.
De puristes, mais pas dans le mauvais sens.
Ouais, qui aiment les trucs bizarres un peu quand même aussi, tu vois, en tout cas le son un peu.
Oui, c'est des gens qui aiment déjà les expériences en fait.
Exactement. Ouais. De quoi parlons-nous?
Et est-ce que ensuite tu as commencé à réfléchir une manière de mélanger un peu ça? Parce que t'as évidemment tes albums solo. Où t'es seul, mais aussi ensuite tu fais des prods pour d'autres mecs. Parce que justement, tu t'es dit, pourquoi pas garder ma carrière solo, moi, pour tout ce qui est abstract hip-hop, et puis pour mon plaisir de kicker, etc. Enfin, pour que les mecs puissent poser dessus, je bosse essentiellement pour du featuring. Ou est-ce que tu t'es dit, je veux quand même sortir encore moi des albums où ça rappe tout le temps, etc.
Bah, en fait, de toute façon, j'ai toujours fait les deux, parce que dans le sens où, à un moment, si je faisais trop dans un style abstract hip-hop, tu vois, tout, je me dis, vas-y, là, il y en a marre des bizarreries. T'as envie de refaire du
Bouddha
Bar. C'est bon, là, t'as envie de sortir du Bouddha Bar. Je retourne sur le parking, écouter du Mob Deep. Et après, en sens, quand tu fais, bon, tu fais tout un album avec, tu vois, que de rap, t'as envie de retourner dans ça, en fait. C'est cool, du coup, tu vois, c'est que c'est comme. Qu'est-ce qu'il disait merde, Jean-Claude Van Damme avec la bière et les cacahuètes, tu vois. tu bois de la bière, et puis si au bout d'un moment, t'as plus envie de bière, tu manges des cacahuètes, et après, t'as plus envie de cacahuètes, tu rebois de la bière. C'est le mouvement perpétuel, c'est le chat avec une tartine collée sur le dos, tu vois.
C'est un peu ta carrière, c'est comme ça.
Exactement.
Qu'on peut la résumer.
C'est un chat avec une tartine collée sur le dos, un verre de bière avec des cacahuètes à côté. Un chat avec un verre de bière collé sur le dos.
Est-ce qu'il y a des.
Ah, je suis parti trop loin, désolé.
Non, c'est très bien.
Il fait chaud ici.
Est-ce qu'il y a des morceaux, justement, purement instrumentaux dont tu es particulièrement fier dans ta carrière et qu'on pourrait s'écouter?
Vu que tu t'écoutes souvent.
En plus, c'est vrai.
On pourrait écouter un morceau sur le dernier album. Alors, est-ce qu'il est sur le dernier album qui s'appelle. Alors, le dernier album, il a un concept un peu particulier. C'est un album dans lequel je voulais à la fois, en fait, proposer. En fait, ça, le thème, c'est les contes pour enfants. Mm-hmm. Donc, en fait, tout ce qui avait dans leur ambiguïté, les deux trucs, c'est-à-dire que des fois, ils peuvent être très sombres, des images très féeriques. Et en fait, c'est un peu le paradoxe entre les deux trucs. Et en fait, pour cet album, c'est un album normalement, comme la plupart des albums, j'aime bien qu'ils soient écoutés de la première piste à la dernière, tu vois. Okay.
Donc, ça te fait un peu du mal qu'on en prenne une au hasard.
Non, mais c'est pas ça. C'est juste pour resituer, en fait, dans le contexte, le morceau, tu vois. En fait, c'est un album sur lequel j'ai écrit des contes avec une amie sur. Et en fait, il y a au fur et à mesure de la tracklist, tu as des comptes avec un compteur qui les raconte et des morceaux qui viennent répondre à ces comptes-là en fait.
Ah ouais, alors, donc il y a vraiment un concept.
Ouais, un concept avec une pochette, tu vois, la pochette est incroyable aussi, dédicace d'ailleurs à Malinard, mon pote, le poteau Malinard qui a fait la pochette. Mais alors sur cet album, parce que là je me suis mais lequel morceau est instrumental déjà? Parce qu'il y a plein de morceaux, mais attends, enfin, parce que c'est vrai que.
Et ceux où il n'y a pas de nom à côté.
Ouais, alors bah, par exemple, il y a Bangofort, il y a l'ouverture, il y a premier
compte. Bangofort, tu peux mettre Bangofort qui met assez pas mal de temps à partir, mais bon, tu verras, c'est une ambiance un peu assez particulière.
Allez, c'est parti. Bangofort,
on va dire que le concept de ce morceau, tu vois, ce serait le moment où tu t'endors et tu sais plus si t'es dans le monde réel. Tu vois ce moment entre du réel, donc où t'es là, c'est le moment où tu te laisses partir en fait.
Allez, Bangofort.
Très Bouddha Bar.
Merci.
Le Schweppes est à 15 euros.
Schweppes est à 15 euros.
Tu m'as caché le morceau, mais je pensais toujours à ta phrase là. Dès que je l'entendrai, je me l'écouterai tout seul. Oh putain, j'entends les bruits de verre de Bouddha Bar là. Oh,
j'avance en tout cas.
Non, c'est bien, c'est cool.
Et tu vois, en fait, c'est une ambiance qui met du temps à s'installer et tout, mais.
J'avance pas alors pour le moment.
De toute façon, on va pas se faire striker, on a l'artiste avec nous.
Ah, maintenant que t'as avec ta prof, c'est après ta phrase sur le bout d'un bar, c'est bon, là. Je strike tout ce que je veux. Là, tu vas pas dans les trompettes qui arrivent, qui révèlent le règne des songes, tu vois. Tu vas pas la nuit s'ouvrir comme un paysage.
Et là, on va être en pleine nuit.
Tu tombes comme le lave.
Ah non.
Ah ouais, ah ouais.
Entre deux, je tombe.
Ah, là, t'es, en fait, t'es là parce que. Voilà, tu vois, c'est des morceaux.
Limite jeux vidéo en fait.
Ouais, bah en fait, tu as un peu ça plus à la musique de film, de jeux vidéo. Tu peux...
Ah, ça marche.
Mais j'aimerais bien, t'as fait dans la musique de jeux
c'est
vidéo.
C'est le côté narratif qui te
c'est
fait
exactement ça.
Bah, il y a le côté narratif et ouais, surtout les jeux de plateforme, ouais. La Ori.
C'est parce que t'as
ça.
Vu aussi la cover.
Non, la cover déjà, elle est ouf, mais ouais, dans le côté un peu onirique, bah, Ori and the Dark Forest.
Ou Limbo, ce genre de délire.
Ouais, voilà. Et t'as une progression comme ça de musique sur tout le niveau pendant que tu perds, parce que c'est des jeux qui sont super durs. Et ça collerait bien. Hein.
Bah moi, ça me ferait plaisir. T'as fait dans la musique après le jeu vidéo. Après, c'est une musique, je crois, où tu peux pas trop utiliser de samples. Là, j'ai maintenant avec
faut
les
clearer,
outils. Faut clearer, mais ouais. Alors moi, des fois, j'en utilise 50 samples différents. Là, tu rien que dans le morceau, dans celui-là, tu vois, il y a autant de la compo, par exemple, les trompettes, tout ça, c'est des trucs que j'ai joué, mais tu peux y avoir 5. Moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger des samples qui n'ont rien à voir à la base, tu vois, et qui les réunir sur des trucs. Même si tu utilises maintenant des micro-portions, il y a même des IA qui peuvent te les striker et tout. Donc. Après, bon, sauf si le mec te dit. Après, ce qui est bien aussi, tu vois, c'est quand un mec te propose, par exemple, une boîte d'édition de piocher dans son catalogue, en fait.
Ouais.
Et là, t'es tranquille, en fait. C'est-à-dire que les mecs te mettent à disposition de tous leurs trucs. Ça, ce serait pas mal, j'aimerais bien.
Parce que là, du coup, t'as rien clearé sur ce.
En fait, je clear les morceaux qui je sais qui vont marcher. Mais si, tout est clearé, gros.
Bien sûr.
Bah ouais, attends, au bout d'abord, nous, on clear tout, gros.
Avec l'argent du Schweppes.
Exactement, à 15 euros.
Tout est clearé avec l'argent des Moritos.
Il y a pour dire que tu restes quand même dans la diversité. J'ai écouté un de tes derniers morceaux justement avec Senbei où j'ai presque rien envie de dire. C'est Back Again.
Là on s'éclate là.
Ouais, je peux. On en parle pas.
Comme ça, on peut parler du punk. Ouais, tu peux pas.
On parle de rien. Vas-y. Senbei Altarba Back Again.
Let's go! Ça va les gars, tout va bien? We're back again, angry and vicious. We
struck again, through the best stitches. Dead bodies on the floor. Ça donne envie de jouer à Tony Hawk là.
Exactement, it's on the stores. Et là, pour vous savoir, par exemple, là, c'est moi qui chante avec un anglais incroyable. Ça, je fais des multisyllabiques en anglais. Alors, je suis pas sûr que ce soit grammaticalement juste, mais ça rime.
Il y a l'énergie.
C'est on the stores.
Il faut aussi qu'on mette un extrait, je sais pas, d'un featuring, je sais pas avec qui, enfin quelqu'un qui pose en, peut-être avec SwiftGad, parce que vous travaillez beaucoup ensemble.
Ouais, carrément, avec mon Swifton.
Il y a un morceau que t'aimes bien que t'as fait avec SwiftGad.
J'en aime aucun. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Bah, tu peux mettre le dernier, Mauvais Sang, comme ça on reste dans l'actualité.
Allez, c'est parti.
C'est et sorti qui a été produit du coup avec SNB aussi.
C'est sorti aujourd'hui.
C'est sorti aujourd'hui.
Elle est magnifique.
Alors là,
oh bah, tiens,
incroyable, nous sommes le 8 novembre et ça vient de sortir. C'est parti, Mauvais Sang.
Alors, faut savoir pour l'histoire de ce morceau, à la base, mon pote Senbei était pas chaud de faire de la drill, mais vu qu'il est fan de musique asiatique, je l'ai manipulé, tu vois. Je lui ai dit, bon, on a qu'à faire la rythmique drill, mais avec des percussions japonaises. Et là, c'est bon, ça va, tu vois. Et puis après, il s'est pris au jeu.
Toutes les ruelles dans ma ville elles sont sales. Quand ça va péter on finira comme des fossiles. Si j'ai la raison qui part en couille dans ma tête, je finirai souterrain, non pas comme un pantin qui est docile. Sur le son d'Altar BSNB on kick aussi. Demande au bassiste on a fait péter les caissons. Je crois qu'il est fini le temps de l'innocence. Si c'est vos caisses elles lui ressent, alors on va planter les tessons. Juste un rappel, juste un replay. Ils se croient suivis par Interpol. Faire des papels, j'entends pipette. Va faire pipi sur l'interphone. J'ai des états d'âme, moi je suis comme des tas d'hommes. J'ai étouffé la flamme et demain je finis sous métadome. Ne les écoute pas quand tu te dis que c'est de la bonne. Ne t'arrête jamais de crier dans le mégaphone. Médecine et mauvaise herbe. Le présent est oppressant. Y'a des cœurs glacés au dessert. Mauvais sang, mauvais travail et mauvais sort. Mais dans mon microprocesseur, y'a rien qui marche. En gros c'est mort. Mauvais sang.
Hey, hein. Il est bien ce morceau.
Ouais.
Ah, il est parti aujourd'hui, merci. C'est tout frais, ça sort du gros fou.
Il faut aussi que tu nous parles justement des, peut-être du côté plus la compositeur Zikos, tu vois, des manières de travailler, parce que j'imagine que ça n'a rien à voir quand tu fais vraiment un pur album, tu vois, abstract, en mode Boudabar.
Putain, je crois que j'aurais jamais dit autant le mot.
C'est toi qui l'as sorti.
Bah, c'est ta faute, je te plains pas après.
Je suis victime
de moi-même.
Non mais j'imagine que c'est pas la même manière de travailler déjà, parce qu'il y a de la place. C'est-à-dire que quand tu fais une instru rap, il faut laisser de la place au rappeur, évidemment.
Ouais.
Là, c'est toi qui dois la prendre la place à travers le sample, à travers la composition. C'est un truc que tu essayes vraiment de prendre en compte. Tu multiplies les couches de malade. Comment ça se passe?
Alors, moi, j'ai tendance à en foutre beaucoup. Tu vois. Ce qui m'a été, ça peut plaire à des gens, il y en a d'autres qui en fait, vont dire qu'il y en a trop. Tu vois. Disons que le minimalisme, c'est pas trop mon truc à moi. Donc, dans ma musique, ça veut pas dire que j'aime pas la musique minimaliste.
Déjà, un truc qu'on retrouve tout le temps, je trouve, les chœurs.
Ouais,
voilà, présent,
ouais, les chœurs, c'est un truc, c'est comme le clavecin, tu remarqueras, j'en fous partout aussi. dès que t'as, mais en fait, les chœurs aussi là, avec Senbei pour le coup, c'était pour faire écho en fait ce morceau à celui qu'on a écouté tout à l'heure qui s'appelle More Pressure, parce que c'est les mêmes styles de chœurs, c'est des voix bulgares en fait. Ouais. Et en fait, on s'est dit, on va faire un clin d'œil à ce morceau-là, More Pressure du premier album en commun, avec ce morceau-là, mais cette fois-ci, on va foutre un rappeur dessus. Donc là, c'est vrai que là, il y a beaucoup de chœurs. Après, c'est un truc que je mets moi beaucoup dans ma musique aussi. Et pour revenir sur ta question, le fait d'empiler les couches, en fait, moi, ce que j'aime bien, surtout dans l'abstract hip-hop, c'est le fait de pouvoir raconter une histoire. En général, j'ai le nom du morceau ou le visuel du morceau avant de commencer le morceau.
Ah ouais.
Pas toujours, tu vois. Je vais pas non plus dire à chaque fois, oh, j'avais pensé à ça et ça s'est matérialisé en audio grâce à. Mais en tout cas, c'est un truc que j'aime bien faire. Comme chaque album, j'aime bien avoir la thématique de l'album avant. Ce qui peut être intéressant, comme si des fois, ça peut être chiant les trucs trop conceptuels, tu vois. Moi, en tout cas, ça me plaît d'en faire et à écouter, mais. Après, pour les rappeurs, j'aurais tendance à dire que moi, des fois, j'en laisse pas assez de la place.
Ah.
Okay. Mais en même temps, ça, c'est pour ça d'ailleurs que je place pas énormément de prod à droite, à gauche, tu vois, mais en même temps, ça propose aussi un truc un peu bizarroïde des fois qui peut.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a moins ce côté-là de. Tu sais, académique. Mm-hmm. On pouvait avoir une époque genre, tu sais, couplet, refrain, couplet, pont et tout, où vraiment, t'avais des, tu entendais le truc où là, normalement, il y a la voix qui vient. Il y a des mecs, même des rappeurs à l'ancienne, qui se sont mis à rapper, genre Ghostface notamment.
Ouais, qui avait des
il en avait rien à foutre. Lui, il rappe sur le sample, il y a les chanteurs qui sont encore là, il en a rien à foutre, il passe par-dessus. Ah ouais.
Ça, c'est un truc que tu peux proposer justement aux rappeurs quand tu fit, leur dire vas-y, je te propose une structure un peu différente, ils s'y prêtent au jeu.
C'est pour ça que moi, j'aime bien en fait surtout faire des albums collaboratifs, tu vois, ouais. Avec une personne.
Plus que sur un single, c'est vraiment
Comme ça, tu peux explorer des trucs.
Ouais, tu peux créer. Déjà, c'est un album que tu peux défendre sur scène, que tu peux aussi, au moment de la création, tu vois. Vraiment aller dans des trucs quand tu travailles avec en one shot par exemple avec des gens et tout, des fois en fait si tu recherches soit à placer la prod à être très efficace, soit la personne sait ce qu'elle veut et en fait elle va le trouver, tandis que tu peux, moi j'arrive mieux à m'exprimer à faire du meilleur travail je pense sur des albums communs où justement là tu peux décider aussi avec la personne, ouais, moi je te propose de faire une structure bizarre, un morceau, un thème chelou, je sais pas moi,
mais t'inquiète, on fera aussi peut-être un morceau un
voilà,
peu plus,
c'est ça, où tu peux te laisser, tu penses différemment le projet en fait, tu le penses tandis que quand c'est du placement de prod en one shot sur des albums, en général t'as tendance soit à correspondre à ce que le gars cherche à ce moment là des fois, et soit à vraiment avoir un truc qui l'impressionne direct en fait, qui prenne direct le banger dans la gueule et bam, tu vois.
Est-ce que t'as l'impression que ton approche musicale, qui est particulière, elle te coupe aussi certains trucs? Est-ce que fondamentalement t'aimerais par exemple que t'aies des purs rappeurs mainstream qui rappent sur tes prods, ou c'est parce que tu recherches, ou
moi franchement je suis ouvert à toutes les, en fait tu vois, contrairement, moi j'écoute beaucoup de rap mainstream aussi, ça me, bah, j'ai pas le truc de dire ouais ça...
Déjà c'est quoi quand on dit mainstream, on parle de qui là?
C'est les gens qui font beaucoup d'écoute sur Spotify. Je sais pas, j'ai des conneries, j'ai un Nio, un truc
après,
comme ça.
Même en sortant du rap, moi, il y a des chansons de Rihanna ou Beyoncé que je trouve super bien faites, tu vois. Notamment, il y a une chanson de Beyoncé qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Hold Up. Après, celle-là, elle est un peu particulière. Mais c'est, je crois que c'est Diplo qui avait fait l'instru, ou c'est une instru qui, c'est entre la musique classique et le reggae.
Là, on va se faire striker.
Ah, sur du Rihanna, il y a moyen, on met vraiment
un c'est Beyoncé, non, c'est Hold Up.
Ah, pardon.
Oh là, Beyoncé, voilà.
C'est dead. Oh là, t'es.
Ah, c'est foutu.
Oh, on peut tout arrêter, c'est bon.
Ah, c'est foutu.
On va se faire striker, même si on n'est pas connecté à Internet, là encore.
Vas-y, au pire, on la virera si ça peut pas être présent. Si vous n'entendez pas la musique, c'est que malheureusement, c'est pas passé. Hold Up, Beyoncé.
Ça part comme du Enya.
Non. Ce qui est marrant, c'est qu'il a fait un sample de Vivaldi, mais il a réussi à insuffler un côté un peu reggae dedans, tu vois, avec les talifianes. Et en fait, je trouve ça assez ouf sur ce morceau.
Vas-y, j'avance parce que.
Il y a un grain particulier au chouf dans la soupe aussi.
C'est on l'accent même.
Et puis c'est le.
Ça nous dit tant, mais. C'est
le bas fait très dub aussi.
Ah
tu
ouais,
vois.
C'est ça, les basses sont, descendent dans les subs. Alors que, ouais. En fait, et c'est pour dire, dans la musique mainstream, il y a aussi des fois de la place pour les trucs un peu plus spé. Mais maintenant, il faut. Tu vois, je suis pas diplo non plus, tu vois. Donc, mais je veux dire, moi, si je devais faire. Ce serait plutôt genre, l'approche, justement, de. D'utiliser les codes de la musique mainstream, mais de partir dans des trucs un peu plus spé aussi. Maintenant, il faut la personne qui te fasse confiance aussi là-dessus. Il faut être à la hauteur aussi des attentes, parce que mine de rien, faire ce genre de musique, ça demande un gros travail de composition, de mixage. Il faut une certaine cohérence que dans la musique spé bizarre, moi, je peux me permettre de faire des trucs, tu vois.
Oui, il y a des clics, quoi.
Ouais, exactement. Là, il n'y a plus de place pour les côtés un peu amateurs, entre guillemets.
Ouais.
Et donc, du coup, voilà, c'est encore un autre monde auquel j'ai pas trop accédé jusqu'à présent, mais j'essaie, tu vois, on verra.
Et t'as déjà refusé des propositions, justement, parce que t'étais pas en phase avec l'artiste ou...
Je sais, là, comme ça, ça me revient pas, parce que, mais possible, ouais, des trucs un peu de maison. Mais encore que, je te dis ça, je me souviens même plus exactement comment ça s'était passé. J'avais une proposition une fois pour un truc. C'est juste que là, je voyais pas trop ce que, en fait. Je savais d'avance que j'allais pas pouvoir proposer un truc, que ça allait être du temps. Il y a des fois où, en fait, si on te dit, ouais, tu proposes des choses, tu vois, puis tu taffes et tu sais que. Ça va dans le mur, tu vas passer une semaine à.
Ouais.
Après, faut pas partir des fétistes, mais sinon, après, non, enfin, c'est juste
des fois
aussi.
Tu t'interdis aucune collab, y a pas de.
Non, après, bon, bien sûr, tu vois, je vais pas collaborer avec des.
Demain, SCH t'appelle, t'acceptes?
Ah, bah ouais, SCH, j'adore SCH, par exemple. Bah, SCH, pour le coup, t'es dans. C'est quand même la bonne classe.
C'est le haut du panier.
Tu vois, on peut dire, c'est à la fois, il peut y avoir des morceaux. Des morceaux
virtuoses, des morceaux commerciaux.
Non, pour lui, là, pour le coup, en plus, c'est un des meilleurs lyricistes pour moi en France.
Je crois que c'est un des rares qui peut se permettre justement de partir dans tous les sens et de rester un peu.
Moi, c'est de loin mon préféré dans le top 10 français, entre guillemets, en termes de.
Chaque album a un truc à proposer. Tu vois, c'est, pour le coup, alors, lui, il peut faire des tubes. Et comme des fois, puis en plus, on l'a vu, par exemple, dans la série Nouvelle École, c'est quand même lui qui a le plus de choses intéressantes à dire. Tu vois que le mec. C'est réfléchi derrière aussi. C'est, puis
c'est un
drôle,
musicien,
c'est,
quoi.
Ouais. C'est un musicien, c'est ça. Ouais. C'est un mec qui peut. Donc, ouais. Donc.
Ben voilà, l'appel est lancé.
j'ai une hypothèse, enfin, non, plutôt une question à te poser. Parce que, mine de rien, là, on a pas mal parlé de ta musique. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de références qui sont plus toutes jeunes aujourd'hui. Il Bill Necro et même RJD2. On n'a pas parlé de DJ Shadow, mais je sais que c'est aussi une inspiration pour toi, etc. Blockhead.
On l'a évoqué.
On avait parlé de DJ Shadow, pardon.
Il l'a évoqué tout à l'heure.
Et mine de rien, tout ça, et puis il ressort quand même aussi une identité relativement boom-bap de ce que tu fais. Alors je sais qu'en fait, il y a un paradoxe parce que, en même temps, c'est très varié ce que tu fais, mais on va quand même, mine de rien, t'associer, je pense, quand même à tout ça. Est-ce que c'est un truc dont t'as conscience? Est-ce que parfois t'as l'impression que ça te pénalise, tu vois?
Alors en fait, c'est que la question dans la musique électronique se pose moins que dans le rap. C'est-à-dire dans le rap, t'as vraiment des époques, tu vois, on va dire. Lui, il est à l'ancienne et tout. Mmh. En musique électronique, on fait encore de la. On parlait de la main break tout à l'heure, on fait encore, tu vois, cette boucle de batterie qui est utilisée dans la drum and bass, dans le breakcore et tout. On peut l'utiliser en étant super moderne encore. Et maintenant, il y a moins ce truc-là. Il y a des sons datés, mais on se balade entre les époques un peu plus. Encore que dans le rap, je trouve que maintenant, les albums, ce qui est cool, et moi, tu vois, je suis pas bloqué du tout dans le rap à l'ancienne. C'est-à-dire, j'écoute beaucoup de la UK Drill quand c'est arrivé, je me la suis mangé vraiment, tu vois. Et je pense que.
Non, mais là, il y a un retour du boom bap, tu vois, le néo boom bap.
En fait, ce que j'allais dire, c'est les albums maintenant te proposent, en fait, ils puisent dans chaque saveur. Et en fait, dans les albums, t'auras un morceau boom bap.
Côté playlist d'aujourd'hui.
Ouais. Alors, ça peut être cool quand ça sur un album, en fait, avec, par exemple, on parle des CH qui a des albums quand même qui ont une vraie couleur, une vraie des concepts des fois, tu vois, quand on passe sur Julius et tout. Si c'est des albums fourre-tout, tu vois, j'ai pas d'artiste à citer là, mais
bah, c'est limite des compiles, quoi. C'est moins.
Ouais, des fois, ça peut être moins.
Playlist même avec aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est presque pensé pour Spotify comme une playlist, tu vois.
Mais c'est très triste.
Non, mais moi, je trouve qu'on vit une putain de bonne époque du rap, tu vois. J'écoute plus de rap moderne de maintenant. Alors, tu vas me demander de citer des noms.
Non, mais
en fait, là, à chaque fois qu'on demande de citer des noms, c'est là où t'as tout le cerveau qui fait tu sais.
Non, pas forcément citer des noms, mais plutôt, en tout cas, nous dire, toi, est-ce que t'as une forme, pas de stratégie, tu vois, c'est un trop grand mot, mais est-ce que t'essaies de casser, justement, te dire, vas-y, les gars, je suis pas un mec que du boom bap, j'adore ce qui se fait actuellement, et pour faire en sorte, tu vois, pourquoi pas te fitter avec des types
genre, drill, justement.
Ouais, le morceau avec Swift, là, qu'on a écouté avant, je pense qu'il y avait un côté drill un peu. Ouais. Mélanger à la basse musique, tu vois, ça reste. Moi, en fait, je m'interdis rien du tout et je veux pas me dire. Alors, c'est vrai.
Mais sans s'interdire, même être proactif, tu vois, dire, vas-y, c'est quoi, je vais sortir un album.
De toute façon, si un style me fait kiffer, en fait, j'ai envie d'en faire aussi, tu vois. Et en fait, la trappe, c'est quoi ? C'est des codes, on va dire, de tempo, de basse, de jeu de batterie, mais au final, tu peux en faire ce que tu veux. Mm-hmm. C'est-à-dire, la limite entre les styles, tu peux jouer avec aussi, en fait. C'est-à-dire, t'as des trucs où tu vois vraiment, tu vas dire, ça, c'est de la. Je sais pas, par exemple, là, je regardais une série qui s'appelle Atlanta. Je sais pas si vous avez vu.
Fantastique, bien sûr.
Moi, il fait référence à un style c'est que je combinant. Connaissais pas qui s'appelle la snap. Alors ça a l'air d'être fait un truc où apparemment où toutes les snares c'est des claquements de doigts. Enfin je sais pas s'il fait vraiment référence à ça, mais ça a l'air d'être un style de musique daté aux États-Unis. Alors il y a des styles aussi où t'as vraiment tous les codes qui sont mis dans une chanson et bam, tu vois. Mais après tu vois dans les albums maintenant il y a des rythmiques trap avec des gros samples ou alors inversement, tu vois, tu peux avoir par exemple même là les morceaux boom bap qu'on entend en rap français, souvent les batteries elles sont assez modernes au final. Et ça, tu vois, à Marseille, je trouve qu'ils font pas mal ça, et ça donne aussi un côté. Enfin, moi, j'aime bien. En fait, j'aime bien les gens qui justement
qui mixent un peu le.
Qui mixent un peu, mais en gardant l'essence quand même, pas en se disant juste je fous tout dans une poubelle, je secoue et ça va foutre un truc.
Non, parce que ouais, quand on parle de trap, normalement, ça veut dire que t'as une 808,
t'as un rapport au bass.
Voilà, du not repeat, genre au 1/32e.
Les Charlets, quoi.
Les Charlets, ouais, mais beaucoup, après beaucoup, là-dessus, Charlets, tu peux jouer aussi en foutant des samples qui à la base sonnent vraiment crade, tu vois, la Nine Wonder presque. Enfin, je veux dire, il y a les limites.
Mon héros, je précise. Ça me fait plaisir qu'on parle de Nine Wonder parce que voilà.
Bah parce que lui, par exemple, on parlait de Fruity Loops tout à l'heure. Et le mec qui disait que Fruity Loops n'avait pas de grain. Et puis quand ils ont su que Nine Wonder faisait ses instrus sur Fruity, en fait, ça n'a pas de sens aussi, je trouve, de dire. Enfin, après, c'est encore un autre débat, tu vois. Non, l'outil que tu utilises. Bien sûr, mais là en fait je change complètement.
Parce qu'on peut parler un tout petit peu de matériel, parce que je suis tombé sur une vidéo, alors je crois qu'elle a quelques années maintenant, mais un truc pour Refix où on te voit dans ton studio et j'ai été étonné du minimalisme de ton setup.
Alors là en fait c'est que tu vois, depuis que je vis à Paname, j'ai déménagé énormément de fois et que en fait à la fin, bon, je me disais, c'est quoi quitte à avoir. Parce que sinon en fait tu fais des déménagements en métro et c'est horrible si tu t'installes un studio, tu vois, et je te
déménage. Parce que limite c'était du matériel presque amateur entre guillemets.
Ah ouais, bah de toute façon j'ai toujours le même clavier maître depuis que j'ai 16 ans. Ah ouais. Avec des touches, des fois, qui je mets pas des scotch pour les faire tenir, tu vois, t'as une note qui fait. Ça te donne des meilleures idées. Non, je rigole, il faut que j'en rachète un. Non, mais après, ouais, là, le.
C'est quoi ton rapport au matériel? Parce que tu disais justement,
je pense
y a
que
le grain,
matériel, parce que ce qui est important quand même, c'est d'avoir au moins des enceintes monitor. En fait, là, tu vois, je viens d'emménager dans une nouvelle maison, enfin, tu vois, à la campagne et tout. Et là, par contre, là, j'ai une pièce pour moi, tu vois, avec pour pouvoir faire ça. Ce qui est. Parce que, en fait, c'est au plus au niveau du matos, c'est surtout en fait l'écoute que t'as dans ta pièce, parce que sinon c'est un truc à devenir fou. C'est-à-dire que si ta pièce, ton environnement, tes enceintes, déjà ton oreille toi-même, on n'a pas tous les mêmes réponses. Ouais. Si en plus l'environnement que t'as, la pièce, tout ça, te fait ressortir des fréquences, tout ça et tout, t'es là et tes enceintes. Et y a des manières de pallier à ça, mais. Quand tu étais là, t'es chez toi, t'es là, ouais, ton truc qui. Ouais, les boîtes d'œufs, ouais, c'est tellement mignon, ça, c'est pour les répétitions de groupes de punk rock. T'as 16 ans, oui, je connais la phase boîte d'œufs, mais. Encore que je suis même pas sûr, t'es quoi, je vais balancer, je sais pas si ça marche vraiment
non,
ou pas.
Non, ça marche pas, à ma connaissance.
Vous êtes sûr?
On peut demander à Rhinoiser qui est à côté, ça marche pas, on est d'accord.
Ouais, ça marche pas. Mais ça, tu vois, dans les clips de Sum 41, les premiers, t'avais toujours les boîtes d'œufs et les posters de skate.
Il y a même des vidéos de Vinci où il y a des boîtes d'œufs chez
c'est
lui.
C'est vrai. Ouais. Mais c'est du folklore. C'est... Non, en vrai, il y a dans le monde de l'isolation acoustique, il y a pas mal de douilles. Hein. C'est-à-dire que quand tu veux vraiment commencer à avoir des trucs efficaces, c'est des trucs relativement professionnels et relativement chers en fait. Toutes les mousses basiques, etc., ça fait rien en vrai.
Ouais, c'est après c'est... ça, mais par contre, ça, c'est le truc sur lequel j'investirais, tu vois, à un moment, si c'est. Par contre, de pouvoir te dire que quand t'écoutes ton mix là, à cet endroit, quand tu vas dans la voiture de ton pote et que tu mets play, ça va pas faire parce que ça, je te jure, y'a rien de pire.
Tout à l'heure avec Rhinoiser,
y'a rien de pire, t'es quoi, que quand t'arrives, t'es là, t'es chez toi, l'instru, elles sont lourdes et tout. T'arrives tout fier, à l'époque, t'es gravé des CD et t'es arrivé dans la voiture de ton pote.
Dans une 206.
CD 206, mettre la 4. Tu mets en fait la déception sur le regard de ton pote. T'es là, ça fait t'es là, non, mais parce que toi, c'est quoi cette voiture aussi? Plus jamais vivre ça. Et alors, le pire, c'est quand tu fais ça, mais que c'est en concert. Et ça, je l'ai vécu, mon pote. C'est-à-dire que t'arrives, tes morceaux ils sonnent bien, puis t'arrives.
Ah, ça, c'est chaud.
Si tu les as pas bien.
Ouais.
Pas bien, tu arrives des concerts, là, alors là, t'es.
Ah ouais, donc c'est avec du gros matos en plus.
Ah ouais, bah, c'est du gros matos, les gens l'entendent plus fort, les clics, là, je te les défauts, ils sont là, ils te caressent l'oreille.
Avant qu'on conclue cette partie, qu'on parle un peu à la fois de culture skate, ton rapport au rock rapidement, et puis juste une partie aussi un peu sur le côté développement de carrière, comment t'es entouré, d'où tu tires tes revenus, comment t'as essayé, tu vois, un peu d'envisager tout ça. Il faut dire quand même que tu rappes aussi.
On ne me fait pas rapper, par pitié.
Non, mais.
J'ai pas bu avant de venir, je ne suis pas désinhibé.
Mais en vrai, pour toi, ça a toujours été un peu en mode. Tu vois, j'exagère, pas pour la blague, mais tu vois, genre petit bonus comme ça, ou c'est un vrai délire genre, tu vois,
Non, je kiffe bien rapper. Après, je parle toujours de la même chose quand je rappe. Mais par contre, il y a un truc qui est important pour moi, c'est aussi, tu vois, j'ai un groupe qui s'appelle Drones Brigade. Ouais. Alors, eux sont plus. Moi, je fais les instrus. Et je rappe sur certains textes, mais sur mes potes, avec mes potes, là, on a créé vraiment un projet où ils rappent aussi. Et des vrais projets où on construit les chansons, tu parlais d'albums où vraiment là on essaye que les morceaux nous ressemblent, tout ça, et dedans je rappe pour revenir à ça, mais c'est pas le truc dans lequel je m'exprime le mieux, ouais, ni le plus.
Tu veux dire que c'est pas là où t'es le meilleur, c'est ça que tu veux dire presque?
Ouais aussi c'est dans le... Après j'adore le faire quand même, et surtout quand c'est avec mes potes, tu vois, et que là en plus eux qui me connaissent bien, quand on écrit des textes ensemble, tout ça, on se connaît par cœur, donc on peut se dire les choses sans pitié comme l'amitié. Donc si trouve que ça chie, il va te le dire. Si ça te ressemble pas, il va te le dire. Et aussi tu prends du plaisir à le faire, parce que ça, les textes ils nous ressemblent, tu vois. Maintenant si tu mets une table de freestyle là avec plein de rappeurs aguerris, je vais pas arriver avec des instrus, je vais pas arriver en mode yo. C'est que moi j'ai comme c'était pour faire la jonction, tu me disais qu'on avait parlé du punk rock.
Bah ouais.
Moi en fait j'aime bien gueuler, parce que j'ai vraiment, c'est là, le punk rock c'est une musique que j'écoute énormément dans tous ses styles.
Et gueuler genre comme L.I.M. ou...
Ouais, par exemple, est-ce que tu vois le morceau, par exemple, qu'on a entendu, qui me dit que ça fait penser à Tony pour le skateboard? C'est moi qui chantais sur le morceau, alors là, tu vois.
Ouais, mais là, c'était en anglais, donc...
Ah ouais, bah après, ouais, L.I.M. par exemple, un rappeur qui m'a pas mal influencé, tu vois, surtout dans l'époque des postes, la première violence urbaine, tu vois.
Bah, il y a de la hargne, mais ça gueule pas non plus.
L.I.M.
Ouais.
Ah, au début.
Je trouve qu'il y a de la hargne, tu vois, ça m'est pas.
En tout cas, ouais. Archi vénère, tu rigoles.
Ah non, vénère, oui, mais pas crier dans le micro, tu vois, si?
L.I.M. Ah
okay.
Putain.
Okay.
Ah ouais, non, parce que à l'époque de Mauvaise Langue, bon bah déjà il était petit.
Ouais.
Mais violence urbaine là, il en a plus rien à foutre. Hein,
Puis moi j'aime bien beaucoup l'époque Mauvaise Langue, parce qu'il pouvait gueuler, mais il y avait aussi dans les textes des côtés un peu, enfin des belles rimes, tu vois.
Ouais.
Quand j'ai de la haine, je rêve d'une autre, qu'est-ce qu'il dit, d'une reine saoudienne, mais je traîne. Enfin tu vois, il y avait des trucs, même dans la hargne, il y avait aussi. Et tu sentais des émotions autres, enfin voilà.
En vrai, L.I.M., on n'en parle pas assez. C'est un mec, je pense, qui a marqué toute une génération aussi.
Bah, c'est comme Nesbill, c'est roi sans couronne, le mec.
Il est toujours actif, je crois, d'ailleurs, L.I.M.
Comme Nesbill. Non, Nesbill, il a raccroché, je crois, mais... Ouais, moi, j'aime beaucoup ces artistes qui, justement, sont restés sur l'essence du rap, sans forcément planifier derrière, malheureusement pour eux, tu vois, et qui du coup se retrouvent parfois à galérer. Des fois, ils peuvent aussi avoir un retour, justement, avec des petits qui ont été inspirés par ce qu'ils font, et qui du coup les invitent sur leur projet.
Est rendu aussi.
Ouais.
Est-ce que pour terminer cette partie, on peut se mettre un morceau justement avec Drews Brigade, tu vois, sur lequel t'apparaît, ou que tu aimes vraiment, tu vois.
Lequel on pourrait mettre, parce que du coup, il y en a plein. Hein? Voilà, Pogote avec ton Nodes, allez. Alors là, tu vois, t'as le clavecin, t'as le côté nécro, t'as le côté punk. Donc Pogote, bon, vous voyez le terme, et Nodes, il faut savoir qu'en fait, avec ce groupe, on s'est servi justement du lexique dans Orange Mécanique. Ils utilisent les mecs, là, les droguises, ils utilisent un champ lexique de merde, comment on dit, un argot, pardon, très spécifique en fait, qui mélange des mots inventés par l'auteur du livre, des mots en gitan, des mots en russe. Et donc le nudge, c'est le couteau. Donc le morceau veut dire pogote avec ton couteau. Donc autant te dire que c'est du second degré. Mais je vois bien le encore carnage plus. Que c'est. Encore dans la voiture, j'imagine le pogo, le film d'horreur.
Allez, on s'écoute un extrait. Pogote avec ton nudge.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des punks?
Ben, je n'en ai pour rien.
Oh, oui, ça me fait pas beaucoup, ces gens-là.
Le clavecin est là.
Ah, le clavecin orgue, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un clavecin, un orgue, un hybride, un clavorgue, un aripsin. Un aripsin, c'est con parce que non. Bon.
Il a dit clavecin.
Ouais, ouais, il a dit. C'est de l'orgue.
T'apparaît en combien toi à peu près?
Le refrain, je fais le refrain. Attends, tu avances peut-être de. Bah. Là, on écoute Staff l'instable du coup. Et là, c'est moi.
Ouais, le mec qui gueule quoi.
Exactement.
Voilà. C'était bien vrai.
Voilà, exactement. Dédicace à mes potos Droogs. Voilà. Il me tarde de refaire un projet ensemble.
Bah, c'est pas mal de temps en général quand même entre chaque projet.
Ah, en fait, c'est ouais, on vit chaque. En fait, on s'est tous connus dans la même ville, tu vois. Et après, chacun déménage dans des endroits différents. Chacun a des chemins de vie différents, mais on reste toujours, tu vois, unis. Et donc, c'est ça qui donne aussi le. En fait, ce qui est marrant, c'est quand même on a sorti un projet à un moment où on s'est rendu compte que avant de faire notre premier album, on avait fait peut-être 150 débuts de son, tu vois, qu'on a foutu du coup sur un truc. Mais ouais, on va refaire un projet là. Après, ils font tous des enfants aussi, quelle idée. Dédicace en tout cas.
Vas-y, rapide partie 2 sur la culture skate, mais surtout au niveau musical en fait, parce que je sais pas si c'est ton cas, mais je connais pas mal de mecs qui potentiellement étaient dans le rock ou voire étaient plutôt à la base dans le hip-hop et qui à travers les vidéos de skate se disent, parce que les deux étaient mélangés au bout d'un moment, hip-hop et rock, et découvrent l'autre genre et sont matrixés par le truc. C'est ce que t'as vécu toi aussi?
Bah en fait, moi, j'ai commencé vraiment par le rap, comme je dis à l'école primaire, là, et puis après le punk rock. En fait, le punk rock, là où ça m'a touché, c'est quand je suis allé à Bilbao avec mes parents. En fait, à Bilbao, t'as un festival, je sais plus quand dans l'année, où il y a plein de groupes de punk rock, enfin à l'époque en tout cas, qui se produisent dans la rue. Et là, je vois ce truc, en fait, et c'est pas le punk rock que mes parents ils écoutent, tu vois, c'est pas les Clash, les Sex Pistols, c'est un truc beaucoup plus violent. Mais avec des mecs qui n'ont pas forcément non plus des styles avec des crêtes ou des trucs comme ça. Des mecs qui ressemblent presque des fois à des, tu vois, ce qu'on appelle dans le punk hardcore en fait. Les mecs qui sont en jogging, ils sont en sable de sport et ils sont là aussi pour jouer une musique en fait des fouloirs, mais qui groove aussi, ou qui est super rapide en fait. T'as les deux un peu. Et ça en fait, là, ça m'a marqué énormément. Je me dis, ah ouais, cette branche-là, là, ça me. C'est, en fait, là, je retourne. En fait, je me souviens à l'époque, parce que t'avais des compilations. En fait, les compilations Epitaph, par exemple, ou les compilations Combat Rock pour le punk français, que tu pouvais acheter pas cher du tout à la Fnac, où t'avais, un peu comme sur le modèle de la compilation Groove, un florilège de groupes, tu vois. Et en fait, là, c'est comme ça que tu te fais une culture, en fait. C'est-à-dire, tu sais, mes parents, ils pouvaient, là, tu te fais acheter une compilation vraiment pas chère. C'était vraiment des trucs. Et là, tu peux découvrir plein de groupes. Et à l'époque, tu sais que vu qu'il n'y avait pas trop Internet, là, je te parle de ça, j'étais beaucoup plus jeune encore. C'est là où quand t'achètes un scud, tu le ponces. Enfin, tu vois, et tout. Après, c'était trop bien avec Internet, parce que là, quand Soul Sick est arrivé, tout ça, tu télécharges plein de trucs. Mais du coup, ouais, cette culture punk rock, elle est venue de ce voyage-là aussi, qui m'a donné vraiment envie d'aller écouter. Et comme je te dis, dans le punk rock, t'as énormément de branches, en fait.
Donc là, c'est parce que, en fait, c'était quoi? C'était parce que l'imagerie des mecs.
L'énergie aussi. L'énergie.
Correspondait
le
plus à.
Bah, je sais pas, en fait, il y a des moments dans ta vie où tu prends une claque à un moment par un truc, ouais. Et en fait, tu t'as envie d'y aller à fond. Mais quitte à laisser tomber ce que t'écoutais avant, mais après, moi, j'y suis toujours revenu par contre, tu vois.
Mais t'y voyais du commun, je pense, un peu ce que demande Daz, tu vois.
Ouais, peut-être une culture un peu street.
Ouais, street, ou c'était aussi le côté rugueux, je sais pas, et puis rugueux. Et, en fait, qui ressemblait aussi au code que j'avais, de gamin dans le rap, tu vois. Tu peux pas passer en fait de la crête, tout ça. Enfin, je veux dire, pas pour m'habiller moi-même, mais dans le punk hardcore, il y avait aussi comment dire, ce...
Bah, il faudrait, côté tu un peu peut-être carnaval ou...
Non, dans le punk hardcore, ils sont plus sapés comme rappeurs.
Voilà, justement,
en fait.
C'est-à-dire que là, du coup, ils étaient plus normaux. Enfin,
ouais,
normaux,
ouais, normaux, mais avec une énergie assez ouf aussi, un groove, tu vois. Et après, en fait, bah, de là, ça me donne envie de découvrir tous les styles de punk rock, toutes ces branches, tu vois, que ce soit le skate punk avec des groupes comme NoFX. Alors, skate punk, c'est un terme, tu vois, qui n'est pas très utilisé.
Punk à roulette.
Punk à roulette, tout ça, mais tu vois, il y a un de mes groupes préférés, c'est NoFX. Que ce soit la Oi avec des groupes, tu vois, plus français, comme Trotskids, des trucs comme ça. Le punk hardcore, tu vois, genre des groupes comme Kickback, comme Madball, Sicko Fittle, des trucs qui groovent aussi. Et même le ska punk, tu vois, il y a plein de trucs qui, en fait, et là je découvre aussi, tu sais, une culture où c'est pas mal le do it yourself, c'est-à-dire que il y a plein de petits labels, des mecs qui montent des fanzines et tout, et c'est un truc que tu pouvais un peu retrouver dans le rap d'une autre façon, je trouve. Mais même si à l'époque c'était pas les choses qui m'intéressaient le plus, le fait de me dire ouais là il y a un label underground, mais quand même c'est de par les compiles que tu te rends compte qu'il y a des labels qui font vivre plein de groupes comme ça, ou en tout cas qui montent leur musique. Et dans le rap, il y avait ça aussi, tu vois. Je pense pas que tous les groupes de rap qu'il y avait, par exemple, sur la compilation Groove, même si c'était, ou sur Hostile, vivaient tous du rap, tu vois.
Non.
Pourtant, grâce
clairement
à... Ah, clairement pas. Pourtant, grâce à ces compiles, tu vois, tu pouvais...
Ouais.
C'est un truc que tu retrouvais pas dans...
C'était limite associatif, en fait, le délire un peu...
Ouais, voilà. Et ça, c'est pas un truc que tu retrouves pas dans 100 000 styles de musique, même si ça doit exister dans toutes les musiques, tu vois. C'est le côté où tu peux avoir des groupes qui se permettent d'avoir un son bien rugueux, parce que, justement, ils vivent pas que aussi sur des grosses carrières ou quoi, sur des trucs... Et donc voilà, il y a une fourmilière un peu de...
Et le skate était un peu à la jonction de tout ça. Est-ce que,
alors le skate, encore une fois, c'est un style de punk rock, tu vois. Le skate peut être à la jonction de pas mal de trucs dans le punk rock, mais c'est pas sa base même. Et après, moi, c'est une culture que j'avais aussi parce que je traîne dans les skateparks, les trucs et tout. Et en fait, les vidéos de skate, t'avais beaucoup de musique de punk rock, mais très vite, t'as eu beaucoup de rap aussi. C'est même quitte à ce qu'il n'y en ait plus du tout de punk rock à un moment, et t'avais au taquet de rap. Moi, je me souviens d'un skatepark indoor qui s'appelait Mato Skatepark à Toulouse. En fait, t'avais carrément un mec qui mixait, tu vois. Il mixait ça, où j'ai découvert des crews comme ça, Cypress Hill, des trucs comme ça, parce que le mec, pendant que tu skatais, t'es de Mino, bah t'as un mec qui mixait des scuds comme ça, tu vois. Donc, ouais, non, c'est.
Putain, DJ pour skatepark, c'est un truc de ouf.
Je savais
même pas que ça existait,
bah, le mec, après, tu sais, il y avait une pièce, en fait, tu vois, dans le skatepark où le mec, mais ouais, elle était ouverte, tu entendais tout, en fait, dans tout le skatepark, bah, ça résonnait de ouf, mais c'était cool, tu vois. Et donc, ouais, dédicace à Mato, d'ailleurs, de Mato Skatepark, parce que c'est un endroit qui existe plus maintenant, mais qui a. Je pense marqué pas mal, et qui a aussi créé des légendes. Genre, il y a un rappeur, j'allais dire un skater de Toulouse qui s'appelle Lucas Pouig, maintenant qui a.
Ah bah oui, qui est archi connu.
Que j'ai rencontré dans ce skatepark à l'époque quand on était tout minot, tu vois. Donc, donc voilà.
Et toi, Daz, c'est un truc toi, que tu as observé un peu de loin, la culture skate. Parce que si tu le prends.
Moi, je suis un non-rien.
Mais en fait,
moi, à mon époque, on faisait pas du skate.
Tu sais, il y a un paradoxe. En France, j'ai l'impression d'ailleurs que ça a jamais. Quoique un peu aujourd'hui, mais pas autant qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, tu as les restats du rap aujourd'hui qui assument leur
sans
amour
problème.
Pour le skate et la culture skate.
Lil Wayne,
comment ils sapent et tout, tu vois.
Pharrell.
Bien sûr, Tyler the Creator.
Skateboard P, tu vois. Donc, Tyler. Et ouais, je disais, en dehors de l'émission, il y a même des rappeurs que moi j'écoute un mec qui s'appelle Jay Worthy qui vient de Compton, du côté Bloods de Compton, donc de Bampton, et lui clairement il est complètement dans la culture skate, tu vois, et c'est quelque chose que quand j'écoutais du gangsta rap à l'ancienne, jamais ouais, les mecs ils disaient pas j'arrive en kickflip, tu vois. Non mais dans
la rue, c'était genre, il y avait vraiment le truc, c'était un peu le truc de de victime entre guillemets,
ouais,
tu vois,
c'est
le,
ça non,
dans
mais
le rap
ça.
C'était vu comme ça, le skate, tu vois.
En fait, je crois le moment où vraiment je me suis rendu compte de ce truc là à quel point c'était prégnant, c'est avec Lupe Fiasco, tu vois, Kick Push, où vraiment lui, le gars, tu sens que c'est d'abord un skater et qu'après il est venu au rap, tu vois, et tu fais ah ouais, ok. Mais pour moi, c'était vraiment deux trucs qui était assez isolé, tu vois.
Mais aux États-Unis, je pense quand même que dans les vidéos de skate, il y a très vite, ils ont intégré du rap.
Ouais, mais c'est parce que le rap, ça marche bien dans les vidéos de n'importe quoi.
Ouais, attends, c'est ça. Mais non, mais c'est aussi un. Ouais, c'est, les vidéos de skate, tout ça, c'est un truc qui permettait de découvrir pas mal de sons, mine de rien. Parce que,
ouais, non, mais en plus, enfin, tu vois, on parle de skate, mais il y a aussi la culture vélo, tu vois, la bike life.
Ouais, ouais, tu vois, dans toutes les petits
avec leurs gros VTT là qui font que des roues arrière.
Alors, ça, je l'entends, mais j'ai toujours. C'est valable aussi pour le roller, etc. Ou même pour le surf et tout.
Il y a aussi. Problème, attends, à Baltimore. Il y a la culture cheval.
Mais en fait,
c'est vrai, mais
les mecs, ils ont des chevaux.
Mais tout ça, tu vois, j'ai l'impression quand même qu'il y a une particularité du skate qui a traversé les frontières de la seule pratique du sport et qui a vraiment inscrit des codes
dans
la pop culture incomparable avec tous les autres, y compris sport extrême, tu vois.
En vrai, je pense que le BMX, tout ce qui est freestyle, BMX, machin et tout, c'est la même vibe. Hein.
Ouais, parce qu'ils partagent les mêmes codes, mais je pense vraiment que ce qui a étendu cette culture et qui l'a rendu riche, c'est vraiment le skateboard avant tout.
Alors que, en plus, quand t'es aux États-Unis, je comprends même pas où tu peux faire du skate, tu vois.
Alors, tiens, il y a un truc chouette, c'est que le skateboard aussi, c'est un truc dans lequel quand en fait tu réinterprètes un peu la rue, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait,
chaque truc devient un
spot possible, ouais. Et en fait, t'es amené à beaucoup de balader.
En vrai, c'est l'esprit tag. Je trouve qu'il y a un esprit similaire, tu vois.
Qui peut se rejoindre.
Aller défoncer la ville, tu vois.
Oui, sauf que tu vois, enfin, moi, quand je me balade à LA, par exemple, tu peux pas skater à LA, les trottoirs.
Après, il doit y avoir des spots,
c'est horrible.
Ouais. Ah, donc, ça, au contraire, les tremblements de terre, à mon avis,
ça crée
des trous, des bowls incroyables, des spots qui se créent à chaque tremblement de terre.
Non, mais tu vois, moi, j'étais parti en mode, je vais voir des skateurs, tu sais, dans la rue, normal. En fait, pas du tout.
Des postcards. Ouais.
On parle de ton rapport au rock aussi, enfin, de skate, mais aussi de rock de manière générale. Est-ce que il y a des moments où t'as eu un peu peur ou que ton public devienne surtout un public de rockers qui de temps en temps écoute du rap, tu vois le Syndrome Zwickels, tu vois, alors que c'est le mec c'est débuté de rap aussi.
Moi ça me plaît en général, tu verras même de plus en plus t'as des quepons et concerts, surtout de plus en plus je fais des morceaux punk en fait parce que j'en ai toujours incorporé, mais soit c'était des, on va dire, des influences lointaines. Là carrément je me fais des morceaux comme celui dernier qu'on a écouté, celui qu'on a fait avec Senbei, ouais. Où là t'as les deux pieds dans le plat, là c'est, il y a pas de... Et moi, ça me fait plaisir quand je vois au concert, tu vois, c'est vrai, tu vois, des gens avec des crêtes, et des mecs plus sapés hip-hop, des trucs comme ça. En général, ils partagent pas les mêmes pogos, des fois, encore que maintenant. Non, mais c'est vrai, des fois, ça peut créer des...
Il y a des pogos thématiques.
Au début de notre groupe Rousse Brigade, ça pouvait donner des ambiances un peu cheloues, tu vois. Ouais. T'avais vraiment les côtés punk, les côtés... Et puis des fois, ça... Mais non, moi, c'est un kiff, vraiment. Et puis, tu vois, j'ai commencé à avoir un certain âge où t'as vu les... C'est plus des... Les gens savent ce qu'ils sont, tu vois, ils ont pas besoin de revendiquer à fond un côté, ouais. De là, tu vois ce que
ils se connaissent, ouais.
Il y a moins le côté tribu que tu peux avoir quand t'es plus jeune, où c'est là, c'est nous contre eux, c'est ça et ça, tu vois, donc voilà.
Bon, je vous propose de conclure ce podcast avec une dernière partie sur l'aspect un peu plus carrière, comment t'as construit ça, etc. C'est un truc qui nous tient à cœur dans cette émission, parce que la réalité d'un artiste, c'est évidemment de faire de la musique, enfin d'un artiste musical en l'occurrence, mais c'est aussi d'essayer d'en vivre, de s'entourer, etc. C'est un vrai savoir-faire, il n'y a pas toujours les mêmes approches en fonction des artistes, etc. Et est-ce que toi, quand tu te mets à faire de la musique, très vite t'as conscience que c'est un métier, que tu veux en vivre, et qu'ensuite tu auras besoin d'interlocuteurs pour potentiellement en vivre, tu vois, de ta musique?
Bah en fait, ouais, alors le truc c'est qu'il y a eu plusieurs étapes en fait. Il y a un moment où je voulais faire un G-son plutôt, et puis je me suis rendu compte que c'était pas un métier pour moi, ou technicien plateau, tu vois. Parce que ça commence par faire des stages, donc moi ce que j'ai fait pendant un moment, tu vois, j'allais à la fac et j'avais droit à des conventions de stage, parce que je faisais de la physique acoustique aussi.
Ok.
En fait, une option physique acoustique, alors je faisais une fac d'anglais, donc tu vois. Mais grâce à cette option physique acoustique, j'ai droit d'avoir des conventions de stage grâce à la fac. Grâce à ça, je peux faire des stages dans les studios. Parce qu'en fait, les mecs te prennent pas en stage. Enfin, en tout cas, à l'époque, je sais pas comment ça se passe maintenant, si t'as pas de convention de stage pour les mecs. Sinon, tu vois, déjà, ils sont protégés. En plus, je pense que ça leur apporte, eux, des avantages, je sais pas sur quoi. Mais
fiscaux, ouais.
Déjà, ouais, pour le café, on va dire déjà. Mais du coup, en fait, et c'est comme ça que je commence à être régisseur plateau pendant un an ou deux.
Mais ça, c'était quand t'étais à Toulouse ?
Ouais, ça, c'était quand j'étais à Toulouse. En même temps, soit je sors du lycée, je fais la fac pendant un an ou deux. Et en fait, à côté, j'ai pas eu des super résultats à la fac, mais par contre, j'ai la chance de pouvoir, tu vois, rester chez mes darons. Bon, c'est ce qui est important quand même, parce que j'avais des potes qui allaient au charbon tous les jours, c'est pas la même. Quand tu vas à la fac, t'as moins de pression sur le truc comme ça, tu peux rentrer à la maison, faire du son, tu vois. Ça, c'est la chance que j'ai eue, on va dire. Tu vois, je vais pas cracher dedans. En plus, une carrière, ça, il y a des éléments, en fait, où c'est de la détermination, mais il y en a d'autres où c'est aussi, on part pas tous du même...
Contexte social, économique.
Voilà, alors je dis pas que j'ai une famille de blindés, mais par contre, c'est certain quand même que le fait de pouvoir aller à la fac et de pouvoir rentrer, de remercier mes darons, et de pas me soucier de remplir le frigo, des trucs comme ça, c'est quelque chose qui joue énormément. T'as l'esprit plus libre pour apprendre des trucs, pour, tu vois, et aussi je peux faire des stages grâce à mes conventions de stage, c'est-à-dire de travailler sans être payé, en fait, entre guillemets, travailler, apprendre un métier déjà, mais sans me soucier de ça. Et tout ça, en fait, ça fait que pendant un an ou deux, du coup, je signe entre les stages que je peux faire dans des studios de mastering, à la régie plateau aussi, au Vent du Sud. Je me souviens, dédicace à aussi Sven de moi, parce que j'étais un horrible régisseur plateau. Genre de stagiaire régisseur plateau, je pourrais même pas dire. Enfin, j'étais le genre de mec qui branche le patch, tu vois, c'est les câbles qui rejoignent les instruments à la console, tu vois. Okay. On demande, normalement, tu dois respecter des numéros. Si le kick, la batterie, il est en 1, tu le branches dans ton patch en 1 pour que lui, il le reçoive en 1. Ouais. J'étais le genre de mec sur qui tu peux pas compter. Parce que j'avais un tout, putain, le mec à la console, il ouvre tout, mais en fait, non, il n'y a rien qui est à sa place. Et ça peut être très stressant.
Ouais.
Sur un métier comme ça, tu dois faire dans le vif et tout. Donc, je me rends très vite compte que ce n'est pas un métier fait pour moi, parce que le côté un peu des fois à l'ouest, ça là c'est on est dans le métier du spectacle, on est dans la musique tout ouais, ça et tout, mais il y a précis, énormément, il faut de la rigueur, ouais. Il faut de la discipline et il faut aussi être concentré sur ce que tu fais, ce qui n'était pas forcément mon cas.
Et tu nous parles de ça parce que avant même de te professionnaliser en tant qu'artiste entre guillemets, t'avais conscience qu'on pouvait devenir un professionnel de la musique. Dans un premier temps c'était plus le côté technicien.
Exactement, ouais, parce qu'en fait je me disais le meilleure façon que je puisse, tu vois, j'avais envie de faire de la musique tout le temps, mais que je puisse aussi rester en fait de baigner dans cet univers, parce que mine de rien, même si tu travailles dans la musique, si t'es technicien, là, ça leur bouffe leur journée et tout. Mais en même temps, c'est un métier de passionné aussi, des fois. Mmh. Des fois aussi, il y en a qui le subissent plus. Ça dépend des personnes. Ça dépend le contexte dans lequel ils travaillent. Mais en tout cas, tu restes dans un milieu un peu comme ça. Alors, ça peut. Si t'es technicien concert, si t'aimes ton métier, ça va. Si t'aimes pas, tu peux manger des concerts tous les jours. Et à un moment, ça peut te dégoûter de la musique. Ouais. Ouais. Par contre, tu m'étais dit vite que si, en tout cas, ça, c'est un truc qui permettra d'avoir. Tu vois, j'ai pas l'air d'un branleur quand je fais de la musique aussi chez moi. Mmh. Tu vois, j'ai un pied là, j'apprends un métier. C'est un métier pour lequel au final j'étais pas fait. En fait fait clairement, parce qu'en fait c'était même pas de la mauvaise volonté, j'étais à l'ouest, là c'est un métier
non, le 1 pas le 4 on t'a dit
vois, ou faire tomber les wedges sur les pieds des gens, tu vois.
Oh non, c'est dur ça, c'est
limite chaud. Dangereux non, ouais. Mais, ça coule, ça pèse lourd ces putains de wedges. les bières coulent à flot. Non, en vrai c'était pas fait pour moi. Mais en tout cas, quand au bout d'un moment, quand les instrus commencent à me faire un nom un peu dans la musique, voilà, c'est là où après, au fur et à mesure, tu vois, il y a eu des périodes, tu vois, plus ou moins, tu peux vendre des instrus. À un moment, tu te mets à donner des cours de beatmaking aussi, je faisais ça, tu vois. Mm-hmm. Mais donner des cours de beatmaking, mais quand t'as pas 10 ans, 15 ans d'expérience derrière, des fois, je pense que j'apprenais. Ah, en tout cas, ça me permettait de faire, c'est comme tu fais des petits jobs, en fait, à côté.
Mais genre, les cours de beatmaking, c'était.
Je mettais sur mon Facebook ou mon MySpace, je disais, je peux donner des cours de beatmaking, tu vois, à domicile, tu vois, sur Paris et tout. Et t'avais des mecs qui venaient, tu vois. En fait, c'est pas comme ça que tu gagnes ta vie, en tout cas, moi, à l'époque. Et parce que j'étais pas un vrai prof de. Tu vois,
genre, mais comme un prof de piano, quoi. Tu...
Ouais, un peu, ouais. Et puis ouais. Tu mets derrière le logiciel et tout. Alors, des fois, t'as des mecs qui connaissaient presque plus que moi, tu vois. Mais en fait, le fait est que quand tu développes un style musical, même si t'as moins de connaissances techniques, tu développes.
Toujours des trucs à apporter.
Tu développes ton style à toi, ton grain de son, et c'est toujours intéressant de voir comment les autres taffent. Et en fait, de là, quand je commence à faire de l'abstract hip-hop, je commence aussi petit à petit à faire des concerts, parce que tu fais des concerts en mode. Pas DJ, mais tu vois. Tu es un peu plus dans le monde de la musique un peu
spectacle
électro.
Vivant
ouais, même tu vois, tu peux
en club, tu veux dire, par exemple
club, en fait il y a des, disons que avec des trucs comme la drum and bass, la dub, tout ça et tout, t'as la notion de club, mais c'est pas que du clubbing, t'as aussi des salles de concert qui font des soirées comme ça, t'es entre les deux, tu peux jouer avec sur des trucs. En fait c'est là que se pose la question après de faire des cachets intermittents. Au début, quand tu fais tes cachets intermittents, t'es dégoûté parce qu'on te dit tu vas être payé tant. T'arrives, le mec il te fait un truc et il y a la moitié en fait. C'était au début, t'as pas compris le truc.
Ah oui.
Je me souviens la gueule du gars qui était super sympa d'ailleurs, mais qui m'a expliqué le truc au début, parce que je vais récupérer mon premier cachet intermittent, je m'en souviens de celui-là, tu vois. Parce que c'était aussi le truc pour dire à mes parents, je suis pas un branleur ou d'un moment. Si j'ai fait le statut intermittent, c'est un truc, c'est un repère que tu vois, que les... parce que je parle beaucoup de mes parents, mais c'est important aussi, tu vois, de.
C'est bien, ouais,
de travail, de tout ça, de déjà, bah, tu vois, de rendre. Aussi, mais aussi de. C'était un âge où c'est important de les rassurer, quoi, au fait, tu vois. Tu vois,
justement, ils te mettaient la pression ou.
Non, c'est pas qu'ils mettaient la pression, c'est qu'ils te demandaient où ça va, ce truc-là aussi.
Tes parents, ils écoutaient Akhenaton et Entem.
Ouais, mais c'est pas pour ça qu'ils se disent que je vais être le prochain Akhenaton, tu vois. Akhenaton, c'est bien, il a fait sa carrière, mais quand tu bouteilles sur ton ordi.
C'est pas commun, tu vois, d'avoir.
Ils ont toujours été assez ouverts, tu vois, ça, c'est certain, super ouverts, et ils m'ont toujours soutenu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, même moi, tu te fous la pression toi-même, si à un moment, tu te dis si j'ai. Tu vois, tu as envie aussi de. Bah, au fur et à mesure, de. Tu vois, de.
Surtout quand t'as dit à tes parents.
C'est important.
Ton pseudo, c'est Altarba.
Ils aiment pas trop. Encore que ça les a fait rire. C'est ma grand-mère, surtout, qu'elle trouve que c'est chelou. mais bon, on parlera de ma grand-mère dans un autre podcast, si tu veux. On retourne sur Boudabar, mais pas ma grand-mère. Mais si je voulais dire, stop. Heureusement que j'ai pas bu un coup avant. Je me lancerai dans des blagues incroyables que je te dirais coupe. Et bref. Mais
donc, c'est l'intermittence qui te permet de commencer à dégager pour la première fois des revenus. Et c'est plutôt
la vente d'instrus aussi. Au début, tu peux vendre des instrus via internet. Je me fais à l'époque, tu vois, je vends des instrus avec PayPal et tout. Okay. Tu les vends 150 balles, tu vois. Et en fait, tu vends des packs. Tu fais, moi, ce que je faisais, c'est qu'il y avait quand même. Après mes deux premiers mon premier album, il y a quand même eu déjà des gens qui commençaient à me suivre un peu.
En quelle année là ?
2007. Mais tu vois, à partir de là, sur mon premier album en 2007, il y a des gens. Cet album, il avait un peu. Du coup, j'avais une petite reconnaissance, tu vois. Je dis pas que j'en ai une énorme maintenant, mais il y avait un embryon de truc, tu vois. Ce qui fait qu'il y a des gens, même quand t'as fait des prods pour, tu vois, que t'as de la chance, tu vois, que Il Bill qui pose sur une instru, t'es un peu prise au sérieux, tu vois.
Ouais.
Puis il y avait moins de beatmakers à l'époque, je pense. Du coup, tu vois le niveau. Enfin, il y avait un truc aussi où tu pouvais, si tu sors un projet comme ça de beatmaker, dans l'underground, il y a des gens qui vont parler un peu, tu vois. Et maintenant, c'est plus facile, entre guillemets, plus difficile, je trouve. Parce qu'il y a énormément de gens qui produisent beaucoup de musique. La concurrence, le niveau, il est élevé. Mais bon, voilà. Et en fait, de vendre des instrus comme ça, au début, je faisais ça, vendre des instrus. Tu fais un mailing list des gars qui t'ont contacté, tu leur envoies des palettes de prod et tout. Après, c'est à moi un truc qui m'a. Sur la longueur du temps, c'est pas, enfin, tu vois, tu te mets à faire plein d'instrus, mais tu fais plus pour tes projets à la fois en même temps, enfin, puis tu bâcles aussi les instrus, enfin moi c'était un peu un truc, mais par contre là où j'en suis maintenant, parce que je vais pas te faire raconter toute ma life, tu vois, et tout, mais ce que je conseillerais, c'est au bout d'un moment, c'est en tout cas pour ceux qui ont un pied entre le rap comme moi et la musique électronique, c'est que tu peux en fait cumuler les revenus de manière tout à fait légale, c'est-à-dire tu peux faire des concerts, avoir un statut intermittent, ou le compléter peut-être par des fois être rodi ou technicien, si t'as appris le métier technicien, tu vois, il y en a plein qui naviguent entre les deux trucs. T'as tes streaming, qui peuvent aussi te rapporter à partir du moment où quand ça commence à tourner un peu.
Il faut quand même beaucoup
ouais, mais
beaucoup
moi, stream. C'est un revenu assez important.
Pas négligeable chaque mois.
Ouais, mais après, quand t'arrives à 10 albums, tout ça et tout, et qui sont toujours écoutés, tu te dis, ah, t'as quand même, ouais, tous les 3 mois, en fait, tu vois. T'as aussi donc et puis les projets que tu peux faire à côté. Moi maintenant, de plus en plus, j'aimerais bien donner des masterclass, chose que j'ai déjà fait par exemple. Alors c'est toujours pareil, c'est que j'ai pas un niveau technique incroyable, même loin de là, tu vois. Mais par contre, j'ai des techniques que je... Non, mais même des trucs...
10 albums, on s'en fout du niveau technique, enfin académique.
Non, mais
10
albums, je veux dire, c'était aussi pour le streaming. C'est-à-dire que quand t'as 10 albums qui stream un peu, c'est pas pareil que quand t'en as 15. C'est-à-dire que, tu vois, bah, t'as le revenu d'argent est plus conséquent. Si les
non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est marrant que t'es quand même installé dans ta carrière. T'as pas mal de trucs à ton actif, tu vois. Et limite, tu t'excuses encore de dire « Eh, masterclass,
c'est parce qu'en fait, la technique du son... Et par exemple, une odeur qu'il a, c'est que c'est un truc déjà qui a 100 000 univers. Et en fait, tu vois, c'est entre le côté technique et le côté artistique, les deux se mélangent vraiment beaucoup, parce que c'est ce qui va te permettre aussi de façonner ton son, de sculpter ton son. Donc il y en a qui pourront prendre leurs morceaux et les faire mixer par un ingé son.
Et là où tu es sûr de tes qualités artistiques, les qualités techniques, tu as conscience qu'elles peuvent être améliorées, que des gens, c'est leur métier.
Tu as tendance à désapprendre ce que tu étais sûr à un moment. C'est-à-dire, tu vois, il y a des rapports que tu as, par exemple, ouais, des trucs techniques, mais assez bon, je vais pas, tu vois, sortir dans le jargon et tout. Des choses qu'à un moment, tu disais, je faisais comme ça, tout allait bien, mais en fait, à un moment, tu te rends compte, non. Tu pensais que tu faisais ça bien, mais en fait, tu remets tout en question. Mais c'est ce qui est cool, c'est que si tu le fais d'une bonne façon, ça va donner aussi... Chaque album va sonner un peu différent. Ouais, et puis, tu vas atteindre plus vite des buts. Il y a des choses où, à des fois, tu t'y arrivais presque, entre guillemets, par hasard, parce qu'une batterie tape à ce point-là, tu vois, parce que tu choisis les aimants qui étaient bien placés dans le mix. Mais que maintenant, tu peux le faire sur... en fait, plus tu sais ce que tu fais, plus tu deviens précis dans des trucs.
Bah alors, c'est intéressant comme truc, parce que on connaît... tous des musiciens, des musiciennes qui ont commencé avec une certaine config, tu vois, et qui veulent surtout pas en sortir parce qu'ils partent du principe que c'est comme ça qu'ils connaissent leur art, tu vois. Et c'est même la même chose chez les graphistes et tout, tu vois. Il y en a, ils vont travailler avec Photoshop 3 parce qu'ils disent non, moi, tous les trucs qu'ils ont mis derrière, j'ai peur d'oublier où sont les outils, machin, etc. Est-ce que t'as ce truc-là aussi?
Moi, j'utilise le même logiciel que Cubase depuis, mais par contre.
Mais t'es là sur la dernière version ou...
Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai un ordi avec la version 5 alors qu'on en est à la 12 quand même. Et j'en ai un autre avec la version 10, mais c'est que même les outils que j'utilisais sur Cubase 5 à l'époque.
Ouais.
Il y avait des façons de les utiliser que maintenant j'utilise différemment, pourtant c'est exactement les mêmes. Ouais. En fait, c'est pas du tout au tout, je cherche à peu près le même résultat, sauf que maintenant je sais peut-être plus pourquoi j'arrive à ce résultat. Et plus en fait tu rentres dans le truc, plus. Et puis après, des fois, en fait, désolé, je finis pas mes phrases, mais tu désapprends ce dont t'étais.
Ouais, ouais.
Mais c'est un côté infini en fait.
Bah
et
ouais,
à la fois,
ouais.
Et puis t'as des approches vachement différentes. Il y en a qui vont, à un moment, t'as des règles qui vont dire tout le monde va dire il faut faire comme ça. Entre guillemets, de toute façon, il n'y a pas de façon de faire, même si au final il y a quand même des techniques, tu vois, qui ont prouvé leur efficacité, tu vois. Mais
il y a des pratiques qui sont à la frontière de l'artistique et de la technique, comme le mix. Et puis après, où ça commence à devenir vraiment comme une part très technique, le mastering, etc. Enfin, et à un moment, il n'y a pas de secret.
Mais ce que je veux dire, c'est que
il y a une maîtrise technique ou pas. Et puis à un moment, il faut déléguer aussi parfois. Tes limites, tu vois.
Ce que je dis, c'est que par exemple, t'as des gens, notamment dans la musique électronique, qui viennent à la musique parce qu'ils sont sur le logiciel et qu'ils l'ont kiffé. et qui peuvent se dire, si tu me changes mon logiciel,
ouais, j'ai plus
vu
faire.
Que j'ai pas la, la connaissance académique, le solfège, le machin, ça se trouve, je vais plus savoir faire de son.
Tu peux être un peu désemparé au début, mais après, il y a des choses qui se rejoignent pas mal. Après, encore, il y a tellement de disciplines, tu vois, la synthèse sonore, par exemple, c'est un truc dans lequel j'ai jamais trop mis les pieds, mais c'est tout un nouveau monde, en fait, qui s'ouvre, tu vois. C'est, on est en dehors de la compo, la synthèse sonore, c'est en fait.
Pour ceux qui maîtrisent pas trop, je laisse, si tu veux, la synthèse sonore.
En fait, c'est utiliser des oscillateurs. En fait, par exemple, si t'as un synthétiseur, tu appuies sur la touche, elle fait tut, tu vois, un son basique. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, en faisant interagir des sons et des sources sonores entre elles, des signaux électriques, tout ça, tu vas pouvoir arriver à des résultats avec des sons que tu n'as jamais entendus, ou alors des sons assez incroyables. En fait, c'est super complexe. Ça. C'est vraiment de la technique.
À partir d'un outil, comment façonner tel type
aussi, parce
de
que
son.
Tu crées en fait des textures sonores. Donc, tu as de la technique, mais qui sert de l'artistique. Mais là, où, juste pour revenir, parce que je me suis éloigné sur le quand je m'excuse, les c'est sons, parce que quand tu donnes des cours, tu te places en tant que
sachant.
Masterclass, tu vois, je sais pas. Forcément, en fait, il faut être. Il y a un côté. Moi, je dis de toute façon à chaque fois au début, c'est que moi, je vais vous dire comment je fais moi. Mais il se peut que des fois, je dise des choses qui, soit pour les plus connaisseurs, vous paraître aberrantes, soit autre chose. Mais en tout cas, c'est une, si je partage pas peut-être des connaissances en tant que figé, je partage ma façon de faire le truc. Et c'est pour ça que des fois, en fait, dans les cours.
Mais t'as déjà des gens qui, genre, t'ont reproché en
c'est
mode.
C'est pas vraiment ça, mais en fait, tu peux.
Bah, lui-même,
tu
sais, déjà, il disait le clic, tu vois, dans le club.
Non, mais ça, c'est toi.
Oui, mais là, c'est. Alors là, mais non, en fait, ça peut donner lieu à des trucs un peu.
Y a personne qui genre, excusez-moi.
Bah, si, ça peut arriver, mais qu'ils le reprochent pas, non, mais tu sais. Quand t'as des discussions de technicien son, je te garantis, ça peut être le truc le plus fatigant du monde, comme le plus passionnant, tu vois. Il y a des trucs, des fois, où ça peut se transformer. Hein. Mais bon, voilà, pour revenir là-dessus, les cours, et puis après, ouais, c'est le streaming qui peut rapporter pas mal, les concerts.
Mais tu parles des différentes sources de revenus.
Voilà, en fait, pour revenir sur le truc, la question de base, c'était accumuler, entre guillemets, et le savoir le faire de manière intelligente, différentes sources de revenus. Et puis savoir bien aller jusqu'au bout de tes projets, la façon dont tu le fais. Après, vivre, ça doit pas être le moteur, à mon avis, dès le début principal. C'est pour ça que moi, au début aussi, je pensais vivre aussi plus de la technique, tu vois, du son, plutôt que de me dire direct, je vais gagner ma vie en faisant de la musique. Mais en tout cas, je voulais être dans le milieu dans l'univers musical.
Parce qu'il y a un élément important qu'on retrouve souvent dans cette émission avec nos différents invités, c'est qu'il y a un moment où il faut des interlocuteurs, un entourage. Typiquement, tu parles du stream, bah, il faut un distributeur. Alors tu peux le faire toi-même, tu vois, avec un DistroKid, un truc comme ça, mais tu peux aussi passer par un distributeur. Pourquoi pas pour se retrouver en physique en magasin aussi. Donc ça, il faut trouver quelqu'un pour le faire avec toi.
T'as tout l'aspect web distribution, pardon, excuse-moi.
Et à quel moment tu prends conscience de ça et qu'est-ce que t'as mis en place pour t'aider à ce niveau-là, tu vois. Je pense même simplement à tes droits SACEM, des choses comme ça. T'as beaucoup géré tout seul. Est-ce que
après t'as des gens qui peuvent. J'ai eu les deux cas de figure, des choses que j'ai appris tout seul. J'ai été aussi manager. Il y a aussi les labels et les bookers. Par exemple, les bookers, ça n'a rien à voir, mais
non, mais c'est un élément important.
Ouais, des gens qui t'accompagnent et en fait qui ont aussi quelque chose à en retirer aussi. D'ailleurs, pas toujours. Il y a des fois, ils ont plus de temps à perdre en fait. Mais dans tous les cas, c'est bien de connaître un peu, de savoir. Et avec Internet, tu peux quand même te renseigner. Il y a maintenant, on a suffisamment, je pense, de podcasts, de trucs pour.
On a même une émission qu'on a fait il y a deux émissions.
Absolument.
Si tu t'intéresses à ça, tu connais. Ça vaudra jamais de connaître les ficelles avec les gens qui pratiquent, surtout l'expérience. Mais si vraiment c'est des trucs avec Internet, c'est vrai. Moi, par exemple, Audio Fanzine, tu vois, à une époque, c'est un truc. Bah, c'était assez révolutionnaire face à tuer parce que sur ce site, tu pouvais apprendre plein de techniques de son sur les forums, tout ça. Alors, des fois, sur les forums, t'as bien vu comment c'est sur les forums. Ouais, mais ça, c'est comme ça. Donc, il faut faire gaffe aussi au. Tout n'est pas vrai ce que tu lis sur Internet. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est. Se renseigner un peu sur tout ça. Après, c'est des métiers différents. C'est des métiers qui s'apprennent aussi. Mais bon, il faut les connaître un peu tous. Même si c'est les survolés.
Et donc, t'as trouvé quelqu'un, t'as trouvé, je sais pas, est-ce que c'est un label pour justement t'aider à dire, bon, alors là, je pense que t'as besoin d'un booker, je connais tel mec, machin.
Ouais, ça, après, c'est de relation en relation. Quand t'as un label et puis qu'au bout d'un moment, ils te disent, ce serait bien sur cet album de faire une tournée avec. Au début, t'as pas forcément réfléchi. Donc, tu t'intéresses comment construire un live. Puis après, si ça commence à. Tu vois. En général, c'est les mecs qui viennent à toi.
Ouais.
Mais après, tu peux monter aussi toi-même ta structure. Ou alors, mais après, dans tous les cas, c'est que si tu. Il y a des exemples fulgurants de gens qui hop ça ils sortent et puis c'est leur produit c'est bon c'est il y a des gens qui viennent au concert et tout mais en général ça prend un peu de temps quand même.
Mais toi sur donc ton premier EP c'était 2007.
Ouais.
Quand est-ce que tu as été signé du coup ou quand est-ce que tu t'es entouré?
Signé moi j'ai toujours été sur des labels indépendants donc je sais pas si on peut dire si en tout cas
si,
ça a pas
ouais,
ça.
Bah ouais,
si
ouais,
bah si. Alors le premier label je te dirais
t'étais pas en autoprod alors.
Si sur mes premiers projets j'étais en autoprod.
Ouais, d'accord.
Et en fait le premier label avec qui tu as fait ce serait Jarring Effect à mon avis sur l'album en 2014 donc 7 ans après.
Ah ouais, 7 ans après.
Ouais.
D'accord.
Mais après en même temps tu vois il y a 3 ans où je faisais des études, après tu vois tu vends des instruments mais t'es pas signé sur un label forcément, tu fais des trucs Mais en fait, même être signé, tu vois, c'est pas le truc à mon niveau qui... C'est que les mecs qui t'accompagnent, par contre, sur les squads
et
tout.
C'est pas négligeable, ça.
Ouais, c'est pas négligeable, c'est sûr. Mais c'est pas le truc qui tu te dis, de tout à coup, tu changes de mode de vie. C'est
ah oui, non. Moi, je parlais non, pas en mode major, avance.
Non, c'est pas être signé, c'est tu ramènes la moula d'un coup.
Tu claques ton avance en deux mois et après, tu dois des thunes.
C'est que t'as des professionnels qui sont là pour t'aider parce que seul, c'est trop chaud, c'est difficile.
Ouais, non, tu peux pas faire tout seul, c'est certain. Mais en revanche, c'est bien aussi de savoir.
Garder un œil,
de savoir ce que tu veux sur les projets, parce que moi, en tout cas, je parle de ma carrière, moi, je travaille pas avec des directeurs artistiques, des trucs comme ça, dans le sens où, en général, à tort ou raison, je sais ce que je veux pour un projet. Par contre, les gens peuvent t'accompagner, et aussi, c'est des métiers, chacun est professionnel dans son domaine, tu vois. Maintenant, voilà, je pense qu'il
oui,
serait
bien plus de, sur un de modèle faire, contrat de distrib, ouais. Des choses comme ça, que contrat d'artiste.
Il faut se renseigner, en tout cas, sur tous les métiers, à mon avis, même si c'est, tu vois, pour savoir, moi, quand tu parles avec quelqu'un, que tu saches de quoi, même si tu connais pas son métier, tu peux le faire à sa place, mais tu sais par contre ce qu'il en retourne un minimum. Ça, je pense que c'est un truc. Voilà. Et le savoir est une arme, la connaissance.
C'est vrai. Et peut-être qu'on peut terminer là-dessus. C'est, t'as collaboré avec beaucoup de gens. J'imagine que ça te passe pas de la même manière aujourd'hui par rapport à quand t'as commencé pour les collabs, mais. C'est facile de faire valoir ses droits lorsqu'on collab, d'être crédité, etc.
Ah, tu vas te prendre forcément quelques carottes au début, mais, ouais. Mais en même temps, c'est le métier qui rentre, si tu me passes l'expression.
Ça t'est arrivé, ouais.
Ah, bah ouais, comme tout le monde.
Le métier est bien rentré. Ah,
ouais. Ouais, quand je rote, ça sent les carottes râpées. Voilà, c'est bon, allez, je t'en aurais fait une blague dégueulasse pour la fin. Mais non, oui, et puis après, bon, voilà, après, l'important, c'est de savoir. Tu vois, ça sert à rien de. Et encore une fois, si tu te renseignes un minimum avant, mais par contre, ouais, ça peut arriver. Après des carottes, j'ai jamais pris des arnaques, tu vois. Genre, j'aurais pu être riche, moi. J'aurais dû être connu, tu sais, mais. Tu vois, il y a toujours un gars qui te sort ça. J'aurais dû être connu, mais. Mais non. Mais après, voilà, après, ça fait partie du truc aussi, ou des petits. Mais après, l'important, c'est de surtout savoir pourquoi et tac tac. Mais en tout cas, j'ai jamais pris d'arnaque, tu vois, au point où j'étais là, hey, on ment, tu mets 20 000 balles, c'est, ouais. Comme ça, c'est juste des trucs. Tu places une instru, puis tu vois, t'as pas forcément les retours, ça sème dessus, des trucs comme ça. Mais ça, c'était au tout début. Et puis en plus, même des fois, c'est même pas, comment dire, c'est même toi qui as pas assez à faire attention, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que des fois, les mecs, s'ils t'envoient trois fois les fiches de SACEM, à l'époque, t'en as rien à foutre, parce qu'à l'époque, il faut se les ramener, les renvoyer signer. Au bout d'un moment, les mecs, ils vont déposer le son, tu vois, parce que sinon, ils perdent l'argent en attendant. Mais il y a plein de trucs, tu vois, donc tu peux prévoir. Mais bon, c'est bien de se renseigner un peu sur tout ça, mais d'abord, il faut faire de la musique. Et ce sera la phrase de la fin.
Écoute, très bien. Parfait. Merci beaucoup.
Merci à vous les gars, c'était une belle interview. Ce sera mon interview référence.
Ah, on l'espère bien. Mais tu sais, il y a une tradition par contre dans cette émission.
Ah oui.
C'est qu'on termine toujours avec des recommandations. Parce qu'on a écouté principalement ta musique et tout, quelques trucs que t'aimes. Mais justement, là maintenant, un morceau que t'as envie de faire découvrir à nos auditeurs, un truc qui t'a marqué ou un truc que t'as découvert récemment, je sais pas. Un petit SO, pourquoi pas un poteau, ce que tu veux. Mais en tout cas,
Premier qui me vient comme ça, parce que sinon, après, si je commence à chercher, je vais oublier. C'est le dernier morceau. Bon, Dizzy Rascal, il est très connu. Ah. Mais c'est le dernier morceau que j'ai écouté. Alors, c'est un morceau un peu drillesque. Je sais plus le nom du morceau, mais avec une snare. Enfin, la snare, c'est la caisse claire, c'est le paf. Et vous allez voir, il est franchement rigolo.
Tu vas taper Dizzy Rascal, paf.
Ah, donc Dizzy Rascal, ok.
Dizzy Rascal, ouais, sur YouTube, et tu verras le clip, il est en noir et blanc. C'est tout ce que je peux te dire, et c'est comme ça que je le retrouve.
Ah oui, tu sais, tu te rappelles pas le nom du morceau.
Mais je peux t'aider, attends.
C'est un des récents. Attends, non, reste là, bouge pas, t'inquiète, on va le trouver.
C'est celui où la snare fait paf.
Voilà.
Est-ce que je peux taper ça, ouais, dans YouTube comme ça?
Snare qui fait paf.
En noir et blanc.
Un des derniers sorties.
Get Out The Way featuring Backroad Guy, ça doit être ça, non?
Il est sorti il y a combien de temps?
Un mois.
C'est ça.
Oh là là, incroyable.
Cette snare incroyable. Paf.
La snare, allez,
alors,
paf.
Alors Dizzy Rascal est loin d'être un inconnu. Mais en tout cas, voilà. Big up à vous en tout cas les gars, ça fait plaisir. En fait, ce qui me tue dans ce morceau, c'est vraiment quand la snare elle arrive, j'ai fait oh, tu t'y attends pas, tu vois. Monte le son, tu vois, ça chie. Ce bruit de casserole incroyable là. Paf. On est dans l'Angleterre à fond. Oui.
Just hit him with a diss ting. Kept talking, he should have been listening. Come like he's got no goddamn discipline.
That is so bad,
missing him. Crying and kissing him. Put him in the dirt and piss on him. Did I go too far? Did I go too hard? Did I go retreat?
Très très bon, très très bon. Mais il revient en forme parce que, tu sais, à un moment, il avait bénéficié d'une hype, enfin, en tout cas, de niche, hein. Et puis j'ai l'impression qu'il était un peu retombé.
C'est un des plus gros en Angleterre. Ouais, et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il revient, il rappe en général avec un jeune. Il a fait un son avec Ocean Wisdom, par exemple, qui est incroyable. Et non, mais à chaque fois, il tue ça, en fait.
Non,
et
mais tu sais, je pense genre, c'était quoi, c'était Bassline Junkie, en tout genre, ou tu vois, là, il était vraiment à son. Et puis après, c'est quand même retombé, j'ai l'impression.
Bah, c'est parce qu'il y a eu tous les Skepta et autres, compris le.
Oui, putain, les jeunes qui sont arrivés avec la UK Drill derrière. C'est un. Ouais, mais en tout cas, voilà.
Super, merci beaucoup pour cette reco, Dizzy Rascal, Get Out The Way. Daz, c'est quoi ta reco?
J'hésitais entre un truc...
On peut faire autre chose que du rap, peut-être, non?
C'est
parce qu'on a fait, rap.
Ouais,
on a
fait,
on a mis un peu de punk, ça.
Vas-y, mets-moi Ace Spectrum, un morceau qui s'appelle Trust Me.
Est-ce que ça s'écrit comme ça? Oui.
Oui.
C'est parti, tu veux nous dire un petit mot juste avant?
Et Spectrum, c'est un groupe de soul que je kiffe, en fait.
Okay.
Et ce morceau-là, je suis tombé au pif dessus, et à 3 minutes 50, t'allumes ta MPC et t'appuies sur Rec, parce que...
Alors, ça, c'est le running gag. C'est
chaque fois, c'est pas du rap. Chaque...
En fait, il balance
ses samples. À chaque fois, c'est. Alors là, tu sors la MPC. Et...
C'est pas du rap, du coup.
Les usines à samples, quoi.
Mais ouais, franchement, bête de morceau. Enfin, moi, je le kiffe.
Trust me, et Spectrum.
Oh.
Ah, on change l'ambiance, hein.
Ah ouais, là, je vois bien Ghostface qui débarque là.
J'allais balancer du. Attends. J'allais balancer du rap, mais. Alors attends, monte à 3 minutes 40. S'il te plaît.
3 minutes 40, ouais. Direct, on y
parce
va.
Parce que je l'ai noté, j'ai fait attends. À quel moment?
Allez, juste un tout petit peu avant.
Ouais, bah comme 3, ça. Non, mais 3:40 c'est bien.
3:40 c'est bien.
3:50 le.
Allez, hop.
Là, dans sa boucle. Et après, ça continue comme ça. C'est chambé, franchement.
Lourd. Bah, c'est bon, je garderai le son. On va faire un concours.
Très bien, merci Daz.
Et, plaisir, plaisir.
Et, bah, et moi, je vais aussi faire une reco. Et voilà, ce sera pas non plus du rap, tu vois, histoire de changer.
Voilà, c'est bien. Ça, c'est pour tous les rockers.
Ça vient de sortir. Oh, c'est pop rock, disons. Un peu pop, électro-pop aussi. Bref, c'est Mount Kimby qui vient de sortir un nouveau morceau il y a pas longtemps. C'est un groupe que je connaissais pas, alors qu'apparemment, ils ont bénéficié à un moment d'une petite notoriété. Et j'ai trouvé ce morceau incroyable. Je connais absolument pas l'historique vraiment du groupe, plus que ça. Il me semble qu'ils sont anglais, mais je ne suis pas certain. Je vais regarder en même temps. En tout cas, le morceau Dumb Guitar est fascinant. J'adore l'écouter. C'est dernier temps et je vous mets ça.
Le synthé qui se balade là de gauche à droite, ouais. C'est incroyable, il passe comme une vague.
Je mets le refrain. Un peu plus rock sur le refrain. Mais ouais, alors, j'adore.
Ah, ouais, pareil, les textures de son sont incroyables.
Mais je trouve que c'est enveloppant, tu pars tout de suite avec.
Ah, j'étais parti là.
Parfait. Bon, encore une fois, merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci à la régie aussi.
C'était passionnant. Bien entendu, merci Flav Iris pour la régie.
Bien sûr.
Pas sans Louis qui est là.
Merci les gars d'avoir accompagné Jules.
Merci
au Boudabar.
Merci au Boudabar.
Aurélia Rinoiseur.
Merci à Schweppes.
Merci à Schweppes. Merci à François, évidemment, aussi pour le montage de cet épisode.
Rinoiseur qui est là aussi.
Oui, merci à Thomas, bien entendu, notre partenaire sans qui rien ne serait possible.
Bien sûr.
Acheter chez Thomann, c'est important. Est-ce que tu achètes chez Thomann, Jules ?
Oui, j'achète chez Thomann.
Voilà, c'est ce qu'il faut faire.
C'est qui leur concurrent ?
Il y en a pas.
On en a pas. On n'en connaît pas.
Non, en plus, objectivement, il y a d'autres magasins, on peut en parler.
Ah, il y a le W World qui est sorti, mais on l'a pas entendu.
Non, mais on peut parler de ces magasins.
Dédicace à Thomann.
Mais il n'arrive pas à la cheville.
Vous êtes dans mon cœur, Thomann.
Il n'arrive pas à la cheville.
La rigueur.
Donnez-moi du matos, j'ai besoin d'une MK1.
Il ne vend plus, il ne vend plus la machine.
Oui, mais il doit en avoir en fond là. Thomann, envoyez-moi ma MK1.
Bon, en tout cas, on se retrouve dans 15 jours, évidemment. Tu sais que j'avais dit une bêtise la dernière fois. J'aurais dû ouvrir là-dessus. J'avais dit qu'il y aurait un épisode juste une semaine après et tout. En fait, on n'a pas réussi à enregistrer comme on voulait. Bref.
Mais c'est bien ce qui me semblait. Mais il est où l'épisode ?
Oui, mais on n'a pas réussi. Mais tous les 15 jours, promis, on va revenir à ce rythme bien, bien clair, bien rigide, comme bien j'aime. Évidemment. À dans 15 jours.
Big up, ciao.